Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Comment vous allez?
Bien, c'est une grande question.
On
ça
peut
va
commencer
bien.
Par oh, ça. Oui, c'est, ça un bon, c'est toujours un bon point de départ, mm-hmm. mais la poser pour ben, vrai.
Veux-tu t'sais. La réponse courte ou la longue?
Là, hey, on a tout le temps, fait, je vais prendre la longue.
mais ça va très bien. Ça va. C'est évidemment, c'était un dernier mois très rempli, autant pour Monique que pour moi. Moi, je peux répondre en mon nom, mais il y a eu beaucoup de. Depuis que le film est sorti, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont entrés en contact avec moi. Des belles histoires, des histoires plus sombres aussi. Fait que c'est... Puis étant hypersensible, tout ça m'habite et me remplit. Donc, mais en même temps, il y a quelque chose de très beau à recevoir plein de témoignages puis à se sentir unis. Je l'ai déjà dit lors d'entrevues, c'est... Moi, c'est la première fois que je sens qu'en tant que survivant, on se parle entre nous. On n'est plus tout seul à faire comme... C'est tough, nanana. Fait qu'il y a quelque chose de très, très beau. Moi, je me sens plus forte que je me suis jamais sentie.
Ah ouais?
Ouais, ouais, vraiment. Tu sais. Puis j'ai plein d'amis qui ont vu le film à la sortie du film.
Des gens
qui sont. Ouais, oui. Le documentaire qui sortent de là puis qui font mais ça va-tu? Je pense à toi. Puis je suis comme, non, moi, je vais bien. C'est vous, comment vous allez? Parce que moi, là-dedans, il n'y a rien qui m'étonne. Mais vous recevez toute cette charge-là qui est très intense. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais très bien. Je suis comme, c'est ça. On a beaucoup de temps pour parler, fait que je pourrais dire tout ce que je fais maintenant pour poser des gestes pour que ça change, parce que moi, je suis rendue là dans mon parcours, mais donc je me sens plus forte que jamais. Mais évidemment, le dernier mois a été très rempli de plein de choses très, très riches en émotions.
Tu vois, les témoignages dont tu parles, que tu oui. reçois, c'est ça qui est à la base même de la création du documentaire, de l'élan de la parfaite victime, parce que dans la foulée de l'affaire Roson, on a reçu...
Que vous avez...
Avec Émilie Perrault, qu'on a mis au jour. Le reportage, dans les semaines, les mois qui ont suivi, les témoignages rentraient par dizaines, par centaines. Et on était devenus comme des oreilles pour des victimes et des survivants, survivantes d'agressions sexuelles. Et c'est ça qui, avec toutes les histoires, avec des histoires très complexes, très, très, très dures, des passages dans le système de justice difficiles, d'autres qui n'avaient pas pu, justement, se accéder au système de justice. Et c'est pour ça qu'on a fait le film. Et là, après l'avoir fait, non seulement ça continue, mais c'est même, je dirais, à un niveau extrême, exponentiel. Tu sais, t'en reçois, moi j'en reçois encore à tous les jours. Mm-hmm. Oui, des hommes, des femmes qui ont vécu des violences sexuelles, mais aussi des policiers, des procureurs, des intervenants qui travaillent auprès des victimes et qui ont vu le film ou qui ne l'ont pas encore vu ou qui nous racontent leurs histoires. Donc c'est vraiment, ça a été ça beaucoup le dernier mois. J'ai essayé de faire une petite coupure cet été après qu'on ait accompagné le film. On a accompagné le film, on a fait des Q&A qu'on appelle, ouais. questions-réponses, un petit peu partout à travers le Québec. Et justement, on a pris le pouls du public à ce moment-là. C'était super précieux pour Émilie et moi de voir comment le public recevait le film, qui était dans les salles aussi, monsieur, madame, tout le monde, ou des gens qui, justement, ont vécu une situation comme celle-là. Donc, ça a été un été intense, très intense. Nous, ça faisait évidemment 3 ans et demi qu'on était... dans le film, dans la création du film, dans nos pensées, toute seule, avec notre film dans la salle de montage. Ça, je le disais là, juste avant qu'il sorte au mois de juin, j'avais l'impression d'être 43 semaines enceinte. Là. C'est comme qu'il faut qu'il sorte. Là. Ouais. On peut plus être juste nous avec ce film-là. Il faut qu'il appartienne au public. Il faut que le public se l'approprie. Et il faut que la discussion ait lieu, celle dont on rêvait tant. Et je pense que ça s'est passé, hein? Ça s'est passé cet été,
oui.
En tout cas. Oui, je pense que on savait qu'on allait donner un petit coup de pied dans le nid de guêpe. Là, c'est pas mal ça qui est arrivé.
Mais ça prend... je trouve que c'est une bonne image que tu dis, là, donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Je tiens à mentionner qu'il y a des rénaux là, chez nous. Fait que si on entend des bruits de fond en arrière, là, c'est des gens gentils qui travaillent. Là, que... Mais est-ce que finalement... Moi, je l'ai dit à Émilie que j'ai reçu sur le podcast, à quel point c'est... Je trouve ça courageux de parler du système judiciaire. Tu sais, c'est quelque chose d'assez rigide, qui est très protocolaire aussi. Mm-hmm. Est-ce que finalement la conversation qui s'ensuit, est-ce que finalement les témoignages prennent plus d'espace dans votre psyché, dans votre esprit, que peut-être les critiques que vous avez reçues? Ou tout ça, c'est comme, hey, c'est une conversation qu'on a à avoir, tout le monde ensemble.
On savait qu'il allait y avoir de la réticence. Là. On savait qu'il allait y avoir de la réticence, c'est pas le mot, que les gens allaient se braquer. C'est un système qu'on pointe du doigt, on pointe des failles, et ça fait pas l'affaire de bon nombre de gens. On s'y attendait. On savait qu'il allait vanter fort, comme on disait avant que le film sorte. C'est sûr que quand on a attaqué notre intégrité journalistique, on est allé jusqu'à critiquer notre rigueur. Là, ça, c'est sûr que ça m'a affecté un petit peu plus parce que je me suis dit, attends, là, s'il y a bien quelqu'un qui tourne pas les coins ronds dans la vie et dans son travail, c'est moi. Donc, c'est sûr que ça m'a heurté. Puis en même temps, il fallait voir d'où venaient ces critiques-là. Mm-hmm. C'est évident qu'ils n'allaient pas se laisser attaquer sans répliquer. Je pense et je persiste et signe, on a fait un travail honnête du début à la fin. On le fait pour les bonnes raisons, c'est-à-dire dénoncer des choses qui ne fonctionnent pas. Et ce qui m'a, moi, réconforté beaucoup cet été, ce sont justement les témoignages des gens du système. Ceux qui sont venus nous dire, à titre de policiers, de procureurs, autant de la défense que de la couronne, des intervenants qui œuvrent tous les jours avec des gens qui ont été agressés sexuellement, nous ont dit, merci, vous avez mis le doigt sur le bobo, ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas rond, et il est temps qu'on fasse quelque chose. Donc, ça, quand eux nous disent ça, je me dis, OK, parfait, on a fait notre travail et on l'a bien fait.
Mais moi, de mon côté, donc du côté des survivants et survivantes, ce qui m'a déçu, fâchée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'articles donc, qui ont parlé de la rigueur journalistique, des chiffres et tout ça. Et moi, je me disais... donc, encore une fois, ce film-là était fait pour critiquer ce système-là qui est daté pour ce genre de crime-là, mais aussi pour donner une voix aux survivants et survivantes. Et là, encore une fois... On laisse toute la place à ce débat-là de chiffres, de statistiques, à un système qui se défend plutôt que, encore une fois, d'entendre les témoignages des survivants. Parce que lorsqu'il y a eu, par exemple, des procureurs qui sont allés au BAT en entrevue puis qui ont fait « non, non, mais les chiffres, tout ça », il y a certaines personnes qui ont dit « non, non, mais les victimes sont bien accompagnées, tout va bien ». Puis je suis comme « encore une fois, les gens nous disent comment on se sent, comment on devrait se sentir sans nous inviter dans ce débat-là. » Donc là, on dévie encore le débat avec des intervenants qui sont sur la défensive et ne savent pas se remettre en question. Puis ça, moi, ça m'a déçu, fâché. C'est que tout le spotlight soit sur l'espèce de débat de les chiffres, nanana, mais oui, mais le système... Attention, là, tu sais, n'oublions pas cette prise de parole-là des survivants. Puis... Puis c'est ça, ce système-là, ben c'est dommage qu'au lieu de juste entendre puis de faire « OK, qu'est-ce qu'on a à retirer de ces critiques-là? Comment on peut se remettre en question? » Bien, évidemment, il y en a qui le font, mais ceux qui ont pris la parole publiquement ne le font pas. Ils font comme « Non, non, mais tout va bien, toi, non, non, pourquoi? » Puis je trouve que ça manque d'humilité. Quand un humain fait ça, être juste sur la défensive, je trouve que ça manque d'humilité. Et là, ce système-là, je trouve qu'il manque d'humanité aussi.
Oui, complètement. Je suis d'accord, tu avais l'air de...
Non, mais c'est parce qu'il y a quelques années, en 2017, dans la foulée justement encore du mouvement Moi aussi, tu sais, le système disait « le système fonctionne ». Le système avait déjà une difficulté d'introspection. Et ça, moi, pour avoir arpenté les palais de justice pendant 6 ans, là, tu sais, j'en ai vu des aberrations. J'ai vu du très bon aussi, puis ça, on l'a beaucoup dit. Oui. Des procureurs avec beaucoup, beaucoup de cœur, d'humanité, qui dorment pas la nuit pour faire condamner des agresseurs. Tu sais, il y en a plein. Mais le problème, il est beaucoup plus systémique et beaucoup plus profond que ça. Et cette incapacité de se remettre en question-là, on la dénonçait déjà à l'époque. Et là, on a été témoin encore une fois qu'ils sont pas prêts à... En fait, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le système. Et ils devraient, comme on avait entendu de la part de Beverly McLaughlin, qui était à la tête de la Cour suprême, dans la foulée du mois aussi, elle avait dit « Le public doit avoir des attentes raisonnables en matière d'agression sexuelle. » Tu sais, plutôt que de dire « OK, est-ce qu'on peut s'asseoir et réfléchir à qu'est-ce qui fonctionne pas pour améliorer les choses? » Donc, on est encore là, puis je comprends ta déception. Je la ressens, moi aussi, à ce stade-ci. Par contre, j'ai quand même confiance que les pistes de solutions proposées avec, justement, la pétition, avec Véronique Yvon, avec le ministre de la Justice qui était présent à la première, qui a été complètement bouleversé. Il était dans tous ses états. Il est venu nous voir, puis il nous l'a dit. Il l'a dit, il y a de la résistance. Ça va être difficile. Le tribunal spécialisé, les procureurs, les avocats de la défense, les criminalistes vont avoir une levée de bouclier. C'est sûr que ça se peut que ça marche pas à cause de ça, mais on va vous nous donnez des outils, vous nous donnez pourquoi, des munitions.
Pourquoi vous sentez qu'ils veulent lever les boucliers? Pourquoi ils veulent pas que ça change?
Il y en a qui veulent, hein, cela dit.
Oui, oui, absolument. On jase.
Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de paroles différentes. Donc, moi, j'ai déjà entendu, oui, mais moi, ça me fait très peur. J'ai peur qu'on condamne des innocents.
Mm-hmm.
Puis là, Monique a parlé d'une pétition. C'est que j'ai lancé une pétition il y a environ un mois pour la mise en place d'un tribunal spécialisé. Puis ouais. le tribunal spécialisé, c'est pas une nouvelle bâtisse qu'on construit. C'est vraiment une philosophie d'accompagnement des victimes. Fait que, oui, des trucs au sein du système de justice, comme de la formation des juges, des avocats, des policiers, mais aussi que dès qu'une personne va à la police, qu'elle soit bien accompagnée, qu'elle soit au courant que cette déposition-là, c'est ça que la défense va utiliser contre elle, qu'eux, ils vont prendre ces papiers-là, l'étudier pendant des heures et des heures pour revenir. Donc, tu sais, quelqu'un qui est victime d'agression, qui est encore sous le choc, et, évidemment, les détails, tout ça, c'est très confus. Fait que juste que cette personne-là soit accompagnée vraiment du début à la fin, comme par exemple, avant qu'on prononce une sentence en cour, les victimes ont le droit de prendre la parole et de dire ce qu'elles espèrent de ce procès-là. Mais ça, il y a plein de monde qui ne le savent pas. Donc, juste de connaître leurs droits. Fait que le tribunal spécialisé, moi, quand j'entends des gens du monde de la justice dire « Moi, j'ai très peur pour qu'on condamne les innocents », c'est « Attention, c'est avant tout de mieux accompagner ces victimes-là qui s'embarquent dans quelque chose dont elles ignorent les caractéristiques. »
Puis mieux accompagner juridiquement. Parce oui. qu'il y a déjà des gens qui sont là dans les palais de justice du CAVAC, par exemple, pour être présent quand tu témoignes, pour s'assurer que tu ne croises pas, par exemple, ton agresseur dans le corridor. Il y a des mesures comme ça qui sont en place. Mais là, c'est un accompagnement juridique qui est nécessaire. Justement, chaque mot que tu vas prononcer, fais attention parce qu'on va te le remettre au visage oui. en contre-interrogatoire. Donc, il y a quand même ça qui ferait en sorte qu'on part avec un dossier déjà un peu plus solide parce que bon nombre de dossiers ne passent pas parce qu'on a l'impression que la victime ne va pas passer, par exemple, le contre-interrogatoire et tout. Et on s'est beaucoup fait reprocher d'avoir interviewé Claudette Archambault, ouais. qui a fait acquitter des dizaines et des dizaines d'agresseurs dans sa carrière, même ceux qui voulaient plaider coupable. Cela dit, souvent, il leur dit « Non, on s'en va à procès », puis il faisait acquitter pareil. Il a parlé beaucoup de tactique et très ouvertement. Il y avait une liberté de parole. C'est pour ça que son témoignage était intéressant.
Je ne sais pas si tu as entendu Annick Charrette, qui était là, qui était en procès contre Gilles Barozon puis que ça n'a pas fonctionné malheureusement, elle disait dans l'entretien avec Claude Archambault, elle dit « Je peux cocher toutes les c'est tactiques ça. Qu'il nomme. J'ai vécu ça, moi, pas il y a 20 ans. » Donc, ceux qui ouais. disent « Ouais, mais là, Claude Archambault dans le film, ça... » Ben oui, ça rapporte parce que les tactiques qu'il décrit, malheureusement, sont encore utilisées.
Et c'est ça mon point, c'est que même Marcel aussi, dans le film, même chose, il ouais. a vécu ça. Puis il a d'ailleurs écrit lui aussi une lettre ouverte à la presse pour dire « Non, là, c'est pas des vieilles tactiques d'il y a... C'est encore comme ça. » Et c'est beaucoup ça qui est ressorti des témoignages. Et je trouve ça important de le souligner parce mm-hmm. que on a beaucoup... les gens nous disent « Ah, vous vous êtes fait critiquer pour... » Oui, parfait, mais regardez qu'est-ce que ça donne aussi. Ça donne des voix qui s'élèvent puis qu'ils viennent dire « Non, c'est vraiment comme ça que ça se passe encore aujourd'hui devant nos tribunaux. »
Moi, je vous ai trouvé solide aussi de répondre, mais de manière très professionnelle. C'est pas répondre « Hey, vous autres, vous avez... » Tu sais, c'était juste « On va se réapproprier notre histoire, ou du moins nos souhaits, c'était quoi notre idée? » Puis j'ai trouvé que vous l'avez fait de manière, encore une fois, super, avec une grande rigueur, grand professionnalisme, vous avez, tu sais, il n'y a pas de... Puis je trouve qu'en ce moment, c'est très tendu, l'ambiance est tendue, c'est comme, visiblement, ça veut... En tout cas, après ça, peut-être que moi, je suis trop fragile dans la vie, fait que je me questionne beaucoup sur la critique, tu sais, de base. Et en même temps, je suis un artiste, fait que je veux qu'on soit libre de dire tout ce qu'on souhaite. Fait que même moi, je me fais être en dedans à savoir, ouais, je veux faire ce que je veux, mais en même temps, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Puis... Mais là, on comprend clairement qu'on a deux personnes qualifiées qui font un travail pour que notre société aille mieux, comme c'est assez évident. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de recevoir des critiques, mais il faut au moins mettre ça de l'avant.
Oui, puis ce que j'avais envie de dire tantôt, c'est qu'il y a des gens, comme quand les procureurs sont sortis pour dire non, mais les chiffres, les condamnations, mais même quand il y a condamnation, il y a des filles comme une Juliette Brault, par exemple, qui a pris la parole dans la presse, qui a dit « Moi, mon agresseur a été condamné, mais j'aurais préféré avoir su que ce serait ça mon expérience, je ne l'aurais pas fait. » Elle dit, il y a 4 ans de thérapie avec ma psy qui ont complètement été scrappés par cet avocat de la défense qui a dit que j'étais une fille facile, qui m'a insultée, qui a porté atteinte à mon intégrité, qui a dit que j'étais en amour avec mon agresseur. Tu sais, des trucs qui n'ont pas de bon sens. Donc, on à la limite, ben, c'est important le nombre de condamnations, mais même quand il y a condamnation, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce système-là ne fonctionne pas tel qu'il est. T'sais. C'est pas satisfaisant pour une victime s'il y a condamnation, si elle doit passer par tout ça. T'sais.
Et ces critiques-là dont on parle, t'sais, à un moment donné, on s'est dit, t'sais, dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, puis oui, la critique, elle est importante, surtout la constructive. Moi, j'ai toujours avancé avec la critique dans la vie. J'ai fait mes armes à côté de Paul Arcand. Je veux dire, la critique, amenez-la, là. C'est pour avancer, c'est ça que ça prend. T'sais. Mais il y avait quand même quelque chose qui était assez typique du contre-interrogatoire dans les attaques qu'on nous a... Ouais. Tu sais, à un moment donné, on s'est dit, OK, tu sais, ils cherchent à attaquer la crédibilité, donc à trouver la faille, et ça fait en sorte qu'on élague le débat ou qu'on fait diversion.
Ouais.
Pour susciter un doute.
Ouais.
Et c'est un petit peu ça qui est arrivé dans le débat. C'est que là, les gens, même ceux qui n'avaient pas vu le film, avaient un petit doute sur... évidemment, moi, je vais pas prendre en considération les quelques personnes qui ont dit qu'on avait fait un travail bâclé sans avoir vu le film. Ouais. Parce que ceux qui ont vu le film avaient des arguments pour dire, OK, c'est important de le faire, ce film-là, pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, il y avait ça quand même dans ces ouais. attaques-là qui étaient très... Il y avait des aspects très qu'on retrouvait dans les cours de justice, j'ai trouvé. C'était intéressant,
ben,
quand même.
Tu finissais un peu par illustrer votre point.
Ben, un oui. peu, oui, c'est ça, exact. Au final, oui, 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 c'est ça, c'est ça.
C'est tellement... c'est intense aussi parce que on est... Je me questionne beaucoup. Moi, j'ai été en cours une fois dans ma vie parce que j'avais pogné trop de tickets quand j'étais jeune. Puis je me suis fait retirer mon permis, puis... J'habitais en campagne, puis j'allais à l'école de l'humour, puis il n'y a pas de transport en commun, puis et là, ben j'ai comme contesté, fait que j'ai mis mes bermudas puis ma petite chemise propre, puis j'étais allé avec ma mère à la cour à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais l'air d'aller chercher un méritas, là, c'était terrible, tu sais, puis...
Tu te sentais comment?
Hey, j'ai Nerveux. Pleuré en sortant.
Ah ouais, c'est vrai?
C'est la seule fois de ma vie où quelqu'un me dit « parle plus fort ». Moi, je parle tout le temps fort, tout le monde me dit « baisse le ton ». Là, j'étais devant... Puis il y avait un petit micro. Puis la juge, ouais. Puis comme, parle plus fort. Elle dit mon nom, nanana. Puis là, j'expliquais, mais c'est parce que moi, j'étudie. Puis mon meilleur ami est avocat. Puis en sortant de là, je l'avais appelé. Puis j'étais comme, je sais pas comment tu fais pour travailler dans ce milieu-là. Puis c'est pas les gens qui sont pas fins. C'est juste.
C'est austère.
C'est tellement. c'est froid. Et ça je comprends pourquoi ça l'est. Parce que après ça, il faut comme. Un peu faire, tu sais, une distance avec les émotions pour regarder les faits puis prendre des décisions éclairées. Mais je trouve que dans ce contexte-là, on en vient, j'ai l'impression, encore une fois, là, je dis ça avec une expérience, fait que complètement à travers mon chapeau. Mais j'ai l'impression qu'on en oublie l'humanité.
Mais absolument, mais c'est que ce système-là n'a pas été conçu pour des crimes aussi intimes que ça, fait que... Quelqu'un qui vole un char, c'est bien correct que ce soit froid puis qu'on fasse comme, même si le gars il pleure, regarde, t'as volé une auto,
c'est attends,
au fait, ben ouais, c'est, t'as volé ça, nanana. Après ça, quelqu'un qui a été agressé sexuellement, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas traiter ça de la même façon. Puis dans le film, c'est très bien expliqué, la psychologie des traumas, juste qu'un juge comprenne que. Tu peux pas lui demander 4 fois de quelle couleur étaient les souliers. C'est difficile, mais elle va se souvenir de tels détails. C'est fait comme ça, ces traumas-là. Puis dans le film, il y a le super exemple du juge Kemp, celui qui avait dit à la victime « Pourquoi tu t'es pas juste fermé les genoux là, en Alberta? » qui c'était sorti partout dans les médias. Mais ce juge-là, il a été énormément critiqué, puis il a fait un 180 degrés. Puis Monique peut sûrement en parler plus que moi parce que réalisatrice du film, mais moi, en tant que fille qui ne connaissait pas son parcours, de voir qu'un homme de cet âge-là elle comprenait pas ce qu'il y avait de mal à dire ça. Pour lui, c'était juste une évidence. Ben, pourquoi t'as pas fermé les genoux, ça? T'étais assis comme ça. Pour lui, c'était très technique. Puis c'est après qu'il a fait « Ah, ben, j'ai peut-être des biais, peut-être que je vois pas les choses. Ben, comment une femme voit la vie, nana? » Il a fait un 180 degrés, il a suivi des heures de formation. Puis, il a vécu une transformation qui fait qu'il comprend maintenant. Mais le nombre de personnes dans le système de justice qui sont comme lui, qui se rendent probablement pas compte que leurs paroles ne sont pas adéquates avec des victimes de trauma, ben c'est fascinant de voir ça. Puis c'est là que ça montre qu'il y a un réel travail, ou en tout cas un bout de chemin à faire pour aller rejoindre la réalité de ces victimes-là quand elles arrivent en cours avec, chargées de tout ce qu'elles ont vécu. Mmh. Puis qu'elles se font challenger par un avocat de la défense qui veut juste leur rentrer dedans. T'sais.
Il n'y a pas d'autres crimes comme une agression sexuelle ou dans un contexte de violence conjugale aussi, parce qu'il y a une notion d'intimité qui n'existe pas dans d'autres types de crimes. Et c'est ça qu'un tribunal spécialisé viendrait considérer. Comme Lily disait, c'est pas d'avoir une bâtisse et de fonctionner différemment.
Il y en a qui disent on n'a pas d'argent pour ça. C'est pas ça.
Puis il y en a qui disent le doute raisonnable, puis la présomption d'innocence. Attendez, là, on va pas abolir la présomption d'innocence. Là. On va pas changer les principes de droits fondamentaux. Parce que c'est clair que c'est important, notre système de droit. Puis on a un système de droit canadien qui est foncièrement bon et qui fonctionne quand on le compare, entre autres, par exemple, avec d'autres pays. Mais les pays où ils ont des tribunaux spécialisés, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, ça fonctionne.
Oui.
Ça fonctionne.
Surtout, les gens ont repris confiance en leur système de justice. Exact. Ils ont fait ils ont interrogé la population. Puis depuis qu'il y a un tribunal spécialisé, je pense que ça a augmenté. Là, je veux pas. D'à peu près 30 % le taux de satisfaction et de confiance en leur système.
Ouais.
Fait que ça fait ses preuves. C'est pas comme si on disait, hey, on a une nouvelle idée. Là. Ça fonctionne. Donc, ici, on le voit, le constat du film aussi, c'est pas juste de dire il y a quelque chose qui va pas, c'est regarder la population à quel point elle a perdu confiance en ce système-là, puis c'est vraiment ça qui c'est là que c'est absurde que ce système-là ou que les acteurs du système ne se remettent pas en question, parce que on le voit, les gens disent ben moi je porterai pas plainte, puis moi-même je l'ai dit, moi je me suis pas rendue à procès, mais jamais je me plongerais là-dedans, sachant toute la souffrance puis tout ce que ça va m'apporter. Ben je gagnerais pas, même si je faisais condamner quelqu'un, ça j'y gagnerais rien, je vais juste perdre, on dirait.
On nous a beaucoup dit cet été, vous allez décourager. C'est grave, c'est dangereux.
Il y a on est déjà découragés.
C'est ça, les gens étaient déjà découragés, les victimes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le film. Donc, c'est un petit peu ironique quand même de nous accuser de décourager les victimes. Et si on le fait, cet exercice-là, d'améliorer, d'avoir un lieu, un safe space, disons ça comme ça, là, judiciaire pour les victimes, ben peut-être qu'il va y en avoir davantage. Moi, je pense qu'il va en avoir plus de plaintes, de gens qui vont se tourner vers l'autorité, justement.
C'est souhaitable. Tu sais, encore une fois, je suis tout sauf un professionnel de quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que dire que votre film va te décourager, c'est un peu comme dire « Ah, on fera pas de cours de sexualité au primaire parce que ça pourrait encourager, ou on parlera pas de suicide, on parlera pas de prévention du suicide parce que ça va encourager. » Puis c'est comme « Non, justement, il faut parler des choses. Il n'y a aucun tabou qui aide quoi que ce soit, j'ai l'impression. Mm-hmm. » J'ai vraiment le sentiment que la communication, de partager, de se remettre en question, ça peut juste aider. Ça peut soit nous renforcer l'idée de faire « Hey, on s'est remis en question, puis c'est quoi, finalement, on a raison de penser comme on pense », ou au contraire, faire « Crime, j'avais pas vu ça de même, puis je vais changer d'idée », tu sais. En tout cas, je pense que c'est comme ça dans la vie, pas tu sais. Puis là, c'est juste que c'était... Je sais pas qu'est-ce que... Puis je veux pas du tout je brainstorm un peu à voix haute, mais je veux pas vous mettre que vous sentiez. Mais des fois je fais comme qu'est-ce qu'ils ont peur de perdre, ces gens-là?
Ouais.
Je comprends pas. On baisse pas leur salaire, on met pas en péril leur job, j'ai l'impression. Au contraire, ils vont juste être. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient hey, on veut juste que tu aies plus de connaissances. C'est
mais
ça,
c'est dur d'admettre que...
Une c'est façon ça. De faire n'est pas la bonne.
Ouais, et de se regarder le nombril, de dire OK, peut-être que c'est nous qui, même si on fait bien notre travail, qui devrions changer. C'est un long processus, là, ça, un peu à la lumière du juge Camp. Là, lui-même ne le savait pas qu'il avait à apprendre des choses. Il l'a appris à la dure. Là, il s'est fait tasser de la magistrature. En fait, il a démissionné, mais il aurait été poussé à la porte de toute façon.
Mais aujourd'hui, donc, cet homme-là, il doit être
aujourd'hui,
plus heureux.
Il serait sans aucun doute meilleur juge que d'autres parce qu'il a le bagage et la connaissance. Et d'ailleurs, c'est une des expertes en neurotrauma qui le dit dans le film. Là, dit. Aujourd'hui, il y aurait tout le bagage nécessaire pour siéger dans ce type de cause-là. Et je pense que ce que les avocats de la défense craignent, c'est qu'il y ait que la magistrature formée ait un parti pris pour les victimes, ce qui, dans un sens, n'enlève pas en rien le gros bon sens et l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, parce que souvent, ça repose uniquement là-dessus. Et justement, les juges le disent, quand un accusé arrive en cour versus une plaignante ou un plaignant, c'est en cours que ça se passe, là, l'évaluation de la crédibilité. Alors souvent, on va pas autoriser une plainte parce qu'on se dit « Ah, cette victime-là, peut-être qu'elle n'est pas assez solide, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à la cour. » Il y a une panoplie de choses. D'ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, puis je trouve qu'on n'a pas assez dit. Marcel, dans le film, il y a eu condamnation dans son cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fois que le dossier est autorisé et que c'est à la cour et qu'il y a procès, ou en fait, c'était les procédures préliminaires, où le fils de l'accusé, qui avait eu des confidences, des aveux de son père, en entendant les victimes témoigner avec tout ce que ça implique, émotivement, est allé voir les policiers. Il a dit « J'ai quelque chose à vous dire. » Il m'a fait des aveux. Il l'a admis. Et il est venu corroborer, imaginez, tout ce que les victimes disaient à la cour. Et si, disons, on avait trouvé que Marcel n'était pas assez éloquent, ce qui n'a pas de bon sens, parce que Marcel est un homme tellement éloquent, là, mais, ou n'importe quelle victime, je veux y aller quand même de façon très générale, puis qu'on s'était dit, on ne va pas de l'avant parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont passer le processus, que ça va être... Et qu'on rate peut-être des opportunités comme celle-là, tu sais, d'avoir des culpabilités et des gens qui, une fois qu'ils entendent tout ce que ça implique d'être victime, lèvent la main et disent « OK, j'ai quelque chose à dire, moi aussi. »
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir... est-ce qu'il y a un sentiment de devoir accompli? Et c'est, évidemment, c'est pas un sujet qu'on a l'impression, malheureusement, comme année, c'est comme « Parfait, c'est réglé. » fait qu'évidemment, c'est curieux parce que ça fait super longtemps que vous êtes dans ce processus-là de manière très différente, les deux, et finalement, vous êtes rencontrés sur le film. Mais, bon, mettons, le 3 ans et demi que tu as travaillé avec Émilie, puis là, par la suite, c'est comme, hey, ça sort, tout ça. As-tu l'impression que là, c'était une espèce de renouveau de cette conversation-là? Puis est-ce que vous êtes fiers du travail que vous avez fait et de la conversation? Tu sais, on est ici aujourd'hui, puis on en parle?
Oui, puis je suis contente qu'on ait le temps d'en parler. Parce que c'est ça qu'on n'a pas eu cet été. Je trouvais que c'était des petits clips par-ci, par-là, c'était des petites lettres par-ci, par-là, puis les gens étaient en vacances. Puis je sais que le film, beaucoup de gens disent que ça n'aurait pas dû sortir l'été, mais en même temps, la situation des cinémas, c'était extrêmement complexe de prévoir. Les films vont se bousculer à l'automne. On n'a aucune idée de la situation sanitaire qui nous attend à l'automne. Et c'est un film qui est brûlant dans l'actualité. Il fallait qu'il sorte pour avoir, on l'espérait, l'impact... Je pense qu'il n'y a pas encore assez de gens qui l'ont vu, et pour toutes sortes de bonnes raisons. C'était l'été, les gens sont en vacances. Je pense qu'il va falloir qu'il soit vu davantage.
C'est toujours
en salle? C'est en salle de façon... maintenant, parce qu'il n'est plus en salle au quotidien. Là. Ça va être des projections. Par contre, il s'en vient en vidéo sur demande, donc les gens vont pouvoir le louer bientôt, dans les prochaines semaines, pour pouvoir le voir donc dans le confort de leur salon. Beaucoup de gens aussi nous ont dit que ce n'est pas nécessairement un film qu'ils voulaient voir au cinéma pour des raisons personnelles, parce qu'ils savaient que ça allait être extrêmement difficile de regarder ça. Donc, on devinait derrière probablement des gens qui ont vécu eux-mêmes des violences à caractère sexuel puis qui redoutaient leur réaction, ce qui est tout à fait normal. Je pense que quand les gens l'auront vu davantage, il va y avoir peut-être davantage d'indignation, parce que ça commence quand même, et Lily pourra sans doute renchérir, mais je pense que avec cette pétition-là, il va falloir que ça aille plus loin. Moi, j'ai pas un sentiment de devoir accompli du tout en ce moment. Je pense qu'on a fait un travail important, mais il faut que ça chemine, là, parce que ça peut pas rester comme ça. Ce serait infiniment dommage qu'on ferme les livres là-dessus et qu'on ne pousse pas la réflexion plus loin pour s'assurer qu'on a un système qui tient compte des réalités des victimes.
Puis tu sais, tu nous demandes si on a un sentiment de devoir accompli. J'imagine que c'était peut-être plus pour la réalisatrice, la question. Puis moi, c'est à ce moment-là que je me détache un peu du film pour prendre la parole, parce que moi, depuis longtemps, mais ce film-là est comme un peu la petite tape dans le dos dont j'avais besoin pour prendre l'espèce de parole que j'ai envie de prendre. Au nom des enfants, entre autres. T'sais, je m'associe à la Fondation Marie-Vincent. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est très tabou, là. C'est pas on va pas parler de pédophilie en buvant un verre de vin orange là, le vendredi soir. Là, c'est très tabou, c'est pas un sujet sexy, puis je comprends. Mais la réalité est que dans le film, la majorité des témoignages, les victimes étaient mineures au moment des faits. La réalité, c'est qu'en 2019-2020, il y a eu 120 000 signalements à la DPJ. Il y en a 4 400 qui sont retenus pour abus sexuels ou risque très sérieux d'abus sexuels. Une fille sur 6, un garçon sur 10 vont être agressés avant l'âge de 16 ans. 50 % des victimes d'agression par année ont moins de 16 ans. Tu sais, ça, c'est en ce moment. Ce n'est pas dans les années 50. Fait que moi, j'ai besoin de prendre la parole que j'ai grâce au film pour m'en détacher maintenant puis faire, là, est-ce qu'on peut en discuter de ce qui se passe dans notre société? Parce qu'on a vraiment, vraiment un problème. Ça arrive encore. Marie-Vincent en reçoit quotidiennement. Il y a une liste d'attente pour que les enfants puissent être soutenus. Moi, c'est ça, cette conversation-là que j'ai envie d'avoir puis que j'ai besoin d'avoir. Dans le film, il y a un avocat de la défense qui dit, parmi les criminels que j'ai défendus, pas des agresseurs sexuels, là, des voleurs, des toxicomanes, tout ça. Puis cet avocat-là, il a quoi? Début quarantaine, pas très vieux.
Même pas.
Il dit, il doit en avoir 500 que j'ai défendus qui m'ont avoué avoir été agressés enfant. Mmh. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ça fuck quelqu'un? Je veux dire, moi, j'aurais vraiment pu mal virer. Des fois, je me dis, tu sais, j'ai eu tellement des moments d'agressivité, genre sous l'alcool, tout ça, puis peut-être que si j'avais été un gars, je me serais battue. Je sais pas ce qui se serait passé, mais j'avais cette espèce d'affaire-là en dedans de moi, de tabarnak, de tout le temps fâché, puis c'est ça que ça crée. Puis malheureusement, ben il y a des milliers de victimes à chaque année au Québec, des enfants, puis il y en a qui vont pas dénoncer puis qui seront pas comme moi. Tu sais, moi, c'est ressorti dans la vingtaine. Fait que moi, c'est ça, cette discussion-là que j'ai besoin d'avoir puis de faire, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a un mois, un compte Instagram qui s'appelle « Ça suffit ». Je fais « Qu'est-ce que c'est ça? » Vous avez peut-être vu une vidéo d'Urbania, un gars avec le visage flouté qui a 38 ans qui dit « Moi, ça a commencé, je me sentais attirée, je regardais des photos d'enfants. Puis, à un moment donné, je me suis confiée à un de mes meilleurs amis en disant « Je ne sais plus quoi faire avec ça. Je suis attirée par ça. » Puis, son ami a fait « OK, tu me délites toutes les vidéos de ton téléphone. » Il l'a aidé, puis ce gars-là s'en est sorti. Puis là, cette plateforme-là, ça s'appelle « Ça suffit ». Ils sont sur Instagram, ils ont un site web et ils offrent du soutien aux gens avec des déviances sexuelles. Puis moi, je trouve ça formidable parce que même si on milite pour aider les victimes puis tout ça, ce qui est très important parce qu'il va toujours en avoir malheureusement, il faut essayer de régler le problème en amont. Puis je parlais à une sexologue qui travaille avec des gens qui sont passés à l'acte, là, qui ont agressé des enfants, puis elle me disait « La majorité me disent que s'il y avait eu du soutien avant, ils ne seraient pas passés à l'acte. » Fait que c'est ça qu'il faut entendre.
Les listes d'attente débordent actuellement pour des thérapies.
Gars qui admettent, ouais. Là, qui font « j'ai besoin d'aide » puis qui se font pas aider. Puis il y a quelqu'un qui me disait, une amie qui regardait les policiers, une série documentaire qui suit des policiers, a dit il y a des policiers à un moment donné qui embarquent un gars. Puis le monsieur, il avoue, il dit « merci parce que je sens que j'aurais pu passer à l'acte ». Il dit « ça fait des semaines que je demande de l'aide ». Fait que moi, je trouve que... Puis évidemment, moi, je suis la voix des enfants, la voix des victimes. Je vais toujours défendre ces personnes-là en premier. Mais quelqu'un qui a le courage d'admettre ses failles puis de faire « Chris, j'ai besoin d'aide, ça va pas », je trouve ça extraordinaire. Mais si nous, comme société, on n'a pas les ressources pour aider cette personne-là, sachant qu'un agresseur va faire quoi en moyenne?
Six victimes.
En moyenne. Calice!
Fait que là, c'est exponentiel. C'est ça qui arrive, là.
Oui, c'est ça.
Et là, donc, ça fait quoi? C'est de la violence systémique envers les femmes et les enfants. C'est ça. Et ça crée un problème de santé publique, ultimement, comme Lily disait, parce que ce sont des gens qui vont vivre avec des conséquences épouvantables toute leur vie, qui parfois vont commettre des gestes à caractère sexuel, eux aussi, ou encore n'importe quel type de délit, comme Maître Jem le dit si bien dans le film. C'est pour ça que c'est important qu'on s'y attarde. Et tous les crimes diminuent au Canada, sauf en matière sexuelle. Ça diminue pas. Il n'y a rien qui
ça
se passe.
Augmente.
C'est ça. Donc, il y a vraiment... Il faut qu'on s'y attaque. On ne veut pas vivre dans une société où... je me souviens, dans le film, il est question d'un accusé, puis on voulait zéro mettre le focus sur les accusés, mais dans ce cas-ci, on l'a mis parce que... Moi, j'étais là dans la salle quand ce gars-là il a été condamné. Puis, il y avait possibilité... C'est un des... Le pire viol que tu puisses imaginer, là, c'est ça, OK? C'est ça. Il y a pas... J'entrerai aucunement dans les détails, mais... Tu peux pas imaginer pire scénario. Et ce gars-là, le juge avait la possibilité de lui donner une peine à durée indéterminée, ce qui est presque l'équivalent de jeter la clé, là, dans la mesure où tant et aussi longtemps qu'il ne fera pas, lui, la démonstration qu'il peut sortir, probablement qu'il serait mort en prison. Il y avait 100 % de risque de récidive au bout de 7 ans, voire même de 10 ans, selon les psychiatres qui l'avaient évalué. Et on n'a pas donné cette peine-là. Et le 20 mars, je pense que c'est le 20 mars 2032, je me souviens encore, j'avais noté la date, ce gars-là va sortir de prison. Puis je me dis, OK, on accepte ça. Donc, à partir du moment où on accepte ça, il faut qu'on réagisse à l'autre bout. Là. On ne peut pas rien faire en se disant, on laisse...
Tu sais, moi, je vais régulièrement, dès que je vois quelque chose, évidemment, je suis comme attirée pour lire ça, puis sachant très bien que ça va me mettre à l'envers pour la journée, mais quand je vois des délinquants sexuels qui récidivent, bien souvent, tu vois, il avait été condamné pour, mettons, 13 ans. Il a été relâché après 5 ans. 90 % de chances de récidive, bien, Chris, il a fait 3 autres victimes. Mais pourquoi continue-t-on à relâcher ces personnes-là? Puis à un moment donné, je parlais avec une amie criminologue qui me disait, ce qu'on évalue, c'est le risque de... le nombre de personnes à qui il peut causer du tort. Fait qu'un trafiquant de drogue qui passe je sais plus combien de kilos de coke, mettons, il va plus faire de mal. Là, je fais des guillemets, on est dans un podcast. Il va plus faire de mal, entre guillemets, à des gens...
Le nombre est comme plus grand.
Ouais, mais je veux dire, sachant ce que... tu sais, il y a un psychologue très éloquent dans le film qui s'appelle Pierre Blot, qui dit que le crime qui crée le plus grand syndrome de stress post-traumatique, c'est l'agression sexuelle, plus que les guerres. Puis tu sais, ça, j'en parle souvent. On a donc du respect pour les soldats qui ont fait la guerre, puis on dit, ces gars-là, mais les victimes d'agression, c'est ça. Il y a tellement d'affaires qui nous déclenchent dans la vie, qui nous... tu sais, moi, j'étais sous le gun pendant des années. Mon système nerveux a marché, me retrouver comme... je marche dans la rue, il y a juste un gars de l'autre bord de la rue, il est 1 h du matin, je mets mes clés entre mes doigts, j'ai le cœur qui... puis ça, c'est un exemple, en fait, qu'il n'y a pas juste les victimes d'agression vives, ouais. Plein de filles au quotidien, ouais. Malheureusement.
Ah, on se promenait avec des clés. Ça, on l'a dit au visionnement médiatique, qu'on se promenait comme femme souvent avec des clés. Puis je me souviens qu'il y a un journaliste qui est venu me voir après puis qui a dit, ah, on dirait que... j'avais comme pas réalisé ça. T'sais. C'est comme si, comme homme, tu comprends pas ces craintes-là avec lesquelles on vit. Et pourquoi on vit avec ces craintes-là? Parce qu'on vit dans une société où, malheureusement, c'est tout à fait plausible que ça nous arrive. Et quand on parlait tout à l'heure de violence systémique, là, si on attaque le problème et si on s'assure que des victimes puissent porter plainte, il va y avoir davantage de condamnations, ultimement. Hein, on s'entend. Ça veut dire davantage de peine, éventuellement des fourchettes de sentences qui pourraient être plus importantes. Ça va faire quoi au final? Ça va évidemment décourager. Il n'y aura plus cette espèce d'impunité-là de pouvoir agresser quelqu'un. Tu sais, on est dans un Québec où pendant des décennies, on a fermé les yeux sur des abus sexuels, autant intrafamiliaux que dans nos pensionnats. Je veux dire, c'est épouvantable.
Moi, je suis la fille qui va vous sortir des stats aujourd'hui parce que je les connais par cœur puis elles me marquent au fer rouge, ces stats-là. Moi, je veux vraiment défaire le mythe de l'agresseur, le monsieur, dans une ruelle. Là.
Ouais.
Les enfants là, qui vont à Marie-Vincent, 99 % connaissent leur agresseur.
Mm-hmm. Oui.
C'est les pères, les oncles, les cousins. Puis là, je dis des mots au masculin parce que c'est dans 99,5 % des hommes, la totalité des cas.
Donc, des gens qui se retrouvent en autorité par rapport à l'enfant.
Oui, fait que tu sais, moi, des fois, là, quand je vois sur des groupes de parents Facebook, « Hey, y a-tu quelqu'un qui serait libre pour aller porter ma fille le matin à l'école? » Puis je fais « Ben voyons donc! » Puis après, il peut y avoir des références. Là je porte un gros jugement, peut-être que la personne va enquêter après, mais je suis comme... C'est exactement ça, ce genre de situation-là. Il y a des... Monique, est-ce que c'est toi qui avais sorti un dossier sur un policier qui avait infiltré un réseau de pédophiles puis qui se donnait les trucs entre eux?
Ouais.
Ben, tu pognes une mère monoparentale.
Non.
C'était un club social. Je sais que c'est rough, là. C'était un club social.
J'en ai encore des frissons dans le dos.
Ces gens-là se donnaient des trucs.
Mais attends, comment?
Il y avait des rencontres, des soupers.
T'as parlé avec un policier qui t'a...
En fait, le policier, je l'ai entendu témoigner à la cour.
Okay.
Lui, il avait infiltré ce réseau-là pour pouvoir enregistrer les conversations de ces gens-là qui, comme on fait le vendredi soir tous, hein, on se réunit, on prend un verre de vin, on se prépare une bonne bouffe. Ben eux, c'est ça qu'ils faisaient, mais pour s'échanger des trucs pour ne pas se faire prendre. Et le policier avait infiltré, en effet, le groupe. Et ils ont été, je pense que c'est, mon Dieu, je vais pas donner de faux chiffres, mm-hmm. là, mais ils étaient au moins 16 ou 18, je crois, avoir été. C'est une grosse, grosse frappe policière cette journée-là. Et tout leur visage avait été rendu public. Mais ça existe, ça, là. Ça fait quelques années à peine de ça.
Mais tu sais, les gens veulent pas, on veut pas parler de ça parce qu'on veut pas avoir l'image d'un adulte qui agresse un enfant. Il y a personne qui a le goût d'avoir ça dans son inconscient, mais malheureusement, faut y penser puis faut en parler parce que ça arrive. Puis il y a une éducation à faire aussi, tu sais, les jokes de mon oncle en famille puis toutes ces affaires-là, puis hey, les seins qui poussent, toutes ces affaires-là, de parler du corps des filles, ça suffit, tu sais. Faut comme vraiment, il y a des choses à défaire dans notre culture. Il y a vraiment. Puis moi, des fois, je parle aux gars, je suis comme, tu sais, toi, dans ta gang de chums, là, tu sais, quand quelqu'un prend une parole niaiseuse, c'est votre responsabilité. Si des fois, vous vous sentez impuissant par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les filles? Bien, ta job, c'est d'avoir assez de couilles pour mettre ton meilleur chum à sa place. Ouais. S'il passe un commentaire qui n'a pas rapport, ou dire, elle, j'en rentrerais dans le mur, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, là, on pourrait parler de pornographie. Tu sais, moi, j'en consomme pas parce que c'est niaiseux, mais étant hyper sensible, des fois, j'ai l'impression de ressentir que la fille n'a pas le goût d'être là. Puis quand on voit les statistiques de taux de viol, il y a eu un article dans le Times il y a à peu près un mois et demi, je l'avais mis sur Instagram, je me souviens plus de l'auteur malheureusement, mais ça disait une stat comme un vidéo sur 8 sur YouPorn est un viol. Là. La fille n'est pas consentante. C'est grave. T'sais. Fait que quand tu as des situations comme ça, ben j'imagine que ça marque l'imaginaire quand tu en consommes beaucoup puis que tu te dis, tu sais, quand tu as 13 ans puis que c'est ça ton accès à la sexualité, ben tu te dis que c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est cool, puis c'est ça qu'il faut, comme ça que tu abordes la sexualité. Puis les filles doivent, tu sais, est-ce qu'elles se disent, ben faut que j'accepte des gestes un peu plus violents, tu sais. En tout cas, il y a tellement d'éducation à faire. Puis j'ai envie de parler de Logan Mailloux, tu sais, parce que je suis une grande, grande fan de hockey. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. C'est super important pour moi. Puis là, j'étais tellement fâchée, déçue. Puis j'ai eu des discussions avec des gars qui m'ont écrit en faisant comme « Ouais, ouais, mais c'est pas un vrai viol, là, tu sais, qu'il a fait, là, tu sais. » Puis je suis comme... Tu sais, en ce moment, moi, je parlais encore à Marie-Vincent hier. Il y a 36 % des filles ados qui se sont fait demander une photo intime. Et de ces filles-là, il y en a 16 % dont la photo a été repartagée sans son consentement. Ça veut dire... Puis quand on minimise ça, c'est qu'elle, la petite victime, là, elle se dit que c'est là pour la vie.
Imagine,
on sait comment ça fonctionne.
L'humiliation avec les conséquences
mais à venir
psychologiques
pour, sa
pour toute la vie.
À chaque jour, elle va se dire, ça va-tu ressortir? Ça va-tu, elle va arriver au cégep? La petite, mettons qu'elle a 14, là, tu sais, sa
c'est
vie...
C'est de la pornographie juvénile, mm-hmm. en plus.
Mm-hmm. En plus, tu sais. Ouais.
Puis les jeunes, surtout, parce que c'est quand même... bon, ne réalisent pas ça. Et je me souviens, j'étais là, une des premières causes au palais de justice de Laval où on avait arrêté une dizaine de jeunes garçons pour des partages de photos intimes.
Ah, oui.
L'accusation venait d'être ajoutée au code criminel. Ça n'existait pas, il y a encore, c'est tout nouveau là, avec les réseaux sociaux. Et c'était de voir ces petits gars, je dis des petits gars, là-dedans, il y en avait qui avaient 11, 12 ans, là, puis qui n'avaient pas, tu sais, là, des visages d'enfants dans le box d'accusés avec les parents qui capotent leur vie dans la salle, là, venaient de réaliser qu'ils avaient commis quelque chose de criminel. C'était très, très fort comme image de voir ces jeunes défiler-là, imberbes, tu sais, comme complètement perdus, là. T'avais juste le goût quasiment d'aller le prendre dans tes bras, mais en même temps, tu te dis, attends, là, ce que t'as commis, c'est grave. Et c'était de montrer justement les conséquences sur les victimes. C'est tellement vrai qu'on a tendance à banaliser ou à minimiser, alors que c'est une attaque à l'intégrité physique et émotionnelle de quelqu'un que tu marques au fer rouge pour le restant de ses jours.
Et pour la
absolument.
Vie, parce que même si c'était effacé à un moment donné de l'Internet, ben six choses, lui, il l'a rentré dans son téléphone, il l'a pour tout, et le nombre, la centaine de personnes qui a peut-être ça, il y a vraiment un travail d'éducation à faire.
Mais de là, l'importance d'en parler.
Oui,
parce
oui.
que ces petits gars-là, je ne les connais pas. Je suis persuadé, je suis presque sûr qu'il y en a là-dedans qui pensaient vraiment pas faire quelque chose de mal.
T'sais, non, pas tant que ça.
Mais ben quand tu as 11 ans. Là,
ou quand tu vois tout le monde le faire, tu fais comme ah ben c'est ça qu'on fait.
Oui. Puis qui a compris en six mois.
Ah, ils ont dû avoir une leçon sans aucun doute.
Mais encore une fois, l'idée de parler.
Oui.
Faut parler. Faut parler aux kids. Puis tout ce
puis
que
des gars aussi, tu sais, parce que les puis là, tu sais, je te regarde parce que t'es là, puis je regarde Charles aussi. Mais c'est que nous, tant nous les femmes, là, je veux dire un gros nous, mais on peut prendre la parole, mais on peut avoir l'air d'être fâché, on peut se faire dire, ouais, mais là, elle, tu sais, si moi je prends la parole, ouais, mais elle a été traumatisée quand elle était petite. Là, mais un gars qui a comme le respect puis l'admiration des jeunes comme toi ou comme certains le font, tu sais, en prenant la parole, ça veut tout dire, tu sais, comme, ou moi, j'aime, c'est Pat Robitaille qui est dans les pubs en ce moment de violence faite aux femmes. Ouais. Quand Pat Robitaille regarde la cam, puis, hey, mon chum, c'est toi qui as un problème si tu parles de même. C'est tellement fort. Faut que. Je pense que les hommes qui ont une certaine notoriété puis l'admiration des jeunes ont ce travail-là à faire. Puis c'est pour ça que Logan Mailloux, tabarnak, c'est le Canadien. Tout le monde tripe sur le Canadien. Tous les petits gars qui ont le goût de jouer au hockey ou qui, même qui n'ont pas le goût de jouer, mais qui aiment le hockey, on tripe là-dessus. Fait que, qu'est-ce que ça envoie comme message, cette organisation-là? Hey, plus, tu veux pas être repêché? Ben nous autres, sais-tu quoi, mon chum, viens-t'en. On te repêche, puis c'est pas grave.
En plus, c'est que lui, il a demandé à pas être repêché.
En plus. En plus, en
qu'ils n'ont même pas respecté cette limite-là. Mm-hmm. T'es comme... Mais là, encore une fois, tout le monde demande à ce qu'on respecte les limites, puis ça se poursuit de... On les respecte pas. Mais c'est... Puis pour moi, une des choses que tu as nommées qui est super importante, c'est de ne pas avoir peur de revoir comment on se parle. Parce que moi, ça m'est arrivé là, d'être dans une chambre d'hockey ou être avec des chums ou, tu sais, goffer un groupe, whatever, puis il y a une joke qui se dit, puis là, t'es comme, ah, oh, Colin, puis là, t'arrives pas, puis la personne a le culot de faire, hey!
Trouve pas ça.
T'as pas entendu? J'ai dit et répété, puis là, c'est de faire, ok, là, c'est un con, j'embarque-tu, comment je fais ça, puis là, comment. Puis, mais faut comme vraiment se décomplexer de ça, puis être capable de faire, hey, c'était pas. Puis d'y parler en bienveillance.
Oui, pas en chicanant, exact. Mais juste faire, hey, ça, c'est peut-être moins.
Comme dans le film, hein, Laurie Haskell, elle le dit tellement bien. We don't change people by shaming them.
Exact.
Ouais, on change pas les gens en les insultant ou en les jugeant. Au contraire, tu sais, en leur tendant la main, un peu comme on disait par rapport aux abuseurs eux-mêmes qui cherchent de l'aide, tu sais. Je pense que ça prendra plus de bienveillance dans toutes les sphères de notre société, mais aussi à travers celle-là. Tout mais à
complètement.
Fait.
Puis je trouve que aussi, je comprends que ça prend des hommes pour participer au mouvement. Évidemment, on partage le projet social dans lequel on est, mais je trouve qu'il faut revoir comment on critique les femmes ou comment on... Parce que de dire, voyons, elle est de même aussi, puis ça, c'est faire... Hey, non, c'est ça... Ta mère, c'est une femme, est-ce que comme.
Ouais, on a toute une génération, par exemple, de jeunes et de jeunes hommes qui n'ont pas eu de cours d'éducation à la sexualité. Et ça, moi, ça me dérange parce que quand on a décidé de retirer les cours, on a aussi décidé de retirer des conversations importantes qui ne se sont pas nécessairement déroulées à la maison ou ailleurs. Mm-hmm. Alors qu'on aurait dû utiliser ce moment-là qui est tout aussi important que d'apprendre à lire ou à écrire, d'apprendre à se comporter, d'apprendre le consentement, d'apprendre le respect d'autrui, surtout dans un contexte relationnel et amoureux. Et je pense qu'on a fait une grave, grave erreur à ce moment-là en retirant. Et là, on l'a remis, mais on a donné la responsabilité à des profs qui
ne font pas. Il y en a qui ne le font pas.
Qui ne font pas parce qu'ils ne sont pas outillés ou pour toutes sortes de raisons.
Ça ne leur tente pas. Il y en a que ça ne leur tente pas puis qui trouvent ça tough avec raison. Mais oui, c'est... Je parle souvent de Marie-Vincent parce qu'ils ont un programme extraordinaire dans les CPE, tu sais, dans les garderies. Parce que c'est pas tous les parents qui vont faire... Tu sais, moi, je suis crinquée, là, depuis que mes enfants sont bébés, je leur dis ça, ce que t'as entre les jambes, c'est ton trésor à toi, c'est à toi. Et puis j'éduque mes enfants depuis qu'ils sont nés presque. Mais c'est pas tous les parents qui ont envie de faire ça. Puis ils se rendaient compte que des fois, il y a des enfants qui vivaient de l'abus, mais qui savaient même pas comment le nommer parce qu'ils savent pas qu'entre les jambes, c'est un pénis qu'ils ont. Ils savent même pas comment le nommer. Fait que Marie-Vincent, en fait, ce programme-là, ils vont dans les garderies. Puis, ils apprennent les parties du corps. Ils apprennent que ce qui est en dessous du maillot de bain, ben ça t'appartient, puis quelqu'un d'autre ne peut pas toucher ça. Fait que ça, c'est un super programme, puis il s'était implanté. Là, au primaire, c'est comme, ils fournissent l'information, mais c'est à la discrétion du prof qui doit donner ce cours-là. Puis, je pense pas que les... Ils en ont tellement sur les épaules, là, le système d'éducation, là aussi. Les changements de prof, la pandémie, on comprend.
On a balayé dans leur cours cette responsabilité-là qui, je pense, est quand même à la base d'un changement profond. Parce que quand tu es au fait de ça, et qui est aussi, on parlait de safe space, un safe space pour des gens qui ont vécu des abus à la maison, qui, lorsque c'est abordé, par exemple, dans ce type de cours-là, peuvent avoir une oreille qui est tendue pour dénoncer ou pour en parler. Il y a ça aussi, tu sais, d'ouvrir un dialogue, de leur démontrer que c'est pas normal ou quel est un comportement acceptable versus ce qui n'est pas acceptable. Tu sais, moi, je me souviens, quand on était petite, là, on a à peu près le même âge, là, on en a eu, là, des cours d'FPS, puis de « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien », je m'en rappelle très bien, là, je chanterai pas la chanson, mais je me souviens de la
mélodie. La mélodie me revient.
Ah, ça devient, hein, c'est ça. Mais tu sais, c'était marquant, c'était un peu malaisant comme enfant, mais on a compris que notre corps, notre enveloppe, qu'on pouvait dire non, qu'on nous a enseigné ça, nous. Mais là, après ça, on a arrêté de le faire. Donc, je pense vraiment qu'on a aussi une responsabilité collective de dire ça devrait être instauré dès la petite école, très, très tôt et dans le programme scolaire.
Mais pas juste aussi, tu sais, juste la grosse base, là, mettons, les enfants, fête d'enfants, « Hey, tu viens de recevoir un cadeau, va donner un bec », ça peut plus fonctionner, ça. Si on force un enfant, donner un bisou à quelqu'un, c'est quelque chose d'intime. C'est puis il faut pas que les grands-parents... Des fois, il y en a qui font ça puis qui disent « Hey, le grand-parent l'a pas vraiment bien pris. » Ben, ça, ce sera leur problème, mais on peut pas apprendre à un enfant que même si ça te tente pas, il faut que tu ailles faire un bisou parce qu'on t'a donné quelque chose. Ou sois gentil. Moi, sois gentil. Je veux pas que mes enfants soient gentils. Je veux qu'ils soient polis. Je veux qu'ils soient respectueux. Je veux pas qu'ils soient gentils pour le fun. Si la personne n'est pas... et pas respectueuse de leurs limites, ben ils ont bien le droit de pas être de se défendre, tu sais.
Fait que drôle que tu dises ça.
On a comme été éduqués comme ça.
Mon garçon a 2 ans, puis je me souviens de la première fois où il a pas voulu faire un câlin ou puis je me souviens de lui avoir dit c'est correct, ça tente pas, c'est juste si t'en as envie. Parce que tu sais, puis déjà nous comme parents aussi, on est une nouvelle génération de parents. On va leur inculquer ça différemment aussi, je pense.
Mais c'est pas tout le monde. T'sais.
Mais c'est pas tout le monde, oui.
Il y en a qui vont faire, ben non, mais puis je comprends d'où ça vient. Ça vient de politesse, de faire, ben, va donner un câlin, un bisou. Là, mais je veux dire, si l'enfant, il feel pas cette personne-là, puis qu'il a vécu quelque chose, tu sais, on l'a dit, là, c'est 99 % des cas, les enfants connaissent l'enfant. Des fois, l'agresseur peut être à sa fête. Tu sais, il y a tout ça dont il faut être conscient, puis oui, à l'école, mais à la maison, vraiment, dans les valeurs. Des fois, c'est dans des gestes quotidiens. Le consentement, c'est pas juste à l'adolescence, lors de la première relation sexuelle, c'est le consentement à aller faire un bisou, un câlin parce qu'on t'a donné un cadeau. C'est comme vraiment les balbutiements du consentement à ce moment-là.
Et cesser de fermer les yeux, parce que ça, il y en a tellement plus encore qu'on pense. J'ai couvert beaucoup, beaucoup de causes comme ça où...
Des femmes protégeaient des agresseurs.
Ou des parents avaient comme fermé les yeux, un ou l'autre parent, sur des abus. Tu sais, il y a comme... C'est une forme de complicité, en quelque sorte. Et tout récemment, là, dans les derniers jours, il y a un jugement qui est sorti. C'est une première au Canada. Des parents qui sont condamnés à payer 800 000 $ à leur fille parce qu'ils ont laissé leur fille être abusée en toute connaissance de cause, entre guillemets, en permettant à leur fille de dormir avec son oncle. Et en sachant très bien, même après qu'il ait été condamné pour agression sexuelle, ils l'ont laissé. Donc, ces gens-là savaient ce qui se passait, là. Ces gens-là savaient ce qui se passait. Puis c'est en cours civil que c'est arrivé, cela dit. Là, il y a un dédommagement financier. Mais c'est important, cette décision-là, parce que ça vient dire quoi? Ça vient dire que c'est tout aussi dommageable et criminel de fermer les yeux. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se doutent qu'ils se pensent quelque chose puis qui ne veulent pas s'en mêler. Et on se mêle de nos affaires, tu sais.
Ouais.
On ne peut, plus se mêler de nos affaires. Là, on ne peut plus faire ça, là.
Mm-hmm. Mais là, je vais parler de moi. Là, je ne parlerai pas en détail de mon histoire, mais moi, j'ai vécu ça. Des gens qui sont courants. Donc, étant petite, c'est probablement pour ça aussi que ma mémoire a fait « Là, c'est too much. On efface ça. On va continuer à vivre. Sinon, on ne peut pas vivre avec tout ça. » Puis moi, évidemment, les impacts que ça a, c'est qu'avant que je sois capable de faire confiance à des gens, c'est de mieux en mieux, mais c'est extrêmement difficile. Parce que ce que je dis souvent, c'est que ce qui me fait le plus de mal, c'est pas tant les agressions, c'est ceux qui savaient, les gens qui sont censés nous protéger, puis qui savent ça et qui font rien. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave encore. Puis ça affecte quelqu'un, évidemment. Moi, ça m'a affectée. Puis je ne suis pas la seule. J'en parle à des gens qui me partagent des témoignages. C'est extrêmement grave. Puis c'est super qu'il y ait des condamnations comme ça pour que les gens fassent comme OK, on peut pas se fermer les yeux, tu sais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où c'est comme la mère ferme les yeux, le père agresse, ou comme les parents qui ont pas beaucoup de sous, ben ils ferment les yeux parce que tel monsieur donne beaucoup de sous à la famille. Tu sais,
moi, je pense que c'est de la non-assistance à une personne en danger. Puis ça, c'est un article du Code criminel. C'est un crime de pas porter assistance à quelqu'un en danger. Puis ça devrait être applicable en matière sexuelle, tu sais.
Complètement. Puis c'est qu'on réalise à quel point aussi c'est un domino qu'on part. Qui est sans fin, tu sais, parce qu'après ça, justement, tu sais, ça commence par un événement terrible qui vient complètement miner l'être humain qui est victime de cette situation-là. Après ça, mettons que ça se rend en milieu carcéral, là, c'est comme, ben, ça coûte cher aussi à l'État. Tout ça aussi, c'est une espèce de roue infernale où tu fais, oh mon Dieu, mais on a tellement de travail à faire pour gérer tout ça. Fait qu'on dirait que je peux comprendre les gens qui font, non, on change rien, tout ça, mais je suis comme, non. Si on fait un bon travail vers ça de prévention d'éducation sincère, ce qu'on fait, c'est qu'on protège des enfants vont mener une belle vie.
Qui un jour seront des adultes beaucoup plus...
bienveillants.
Ben, c'est ça. Je pense qu'on.
Puis là, tu sais, moi, j'ai envie de parler encore de cet organisme-là parce que quand j'ai découvert ça il y a un mois, j'ai fait « Mais c'est ça, c'est vrai. »
Et là, la solution, là, la solution.
Mais je vois qu'ils sont suivis par genre 500 personnes sur Instagram. Puis je suis comme « Bien, évidemment, peut-être que les compagnies, là, tu sais, c'est très noble de donner à des organismes comme Marie-Vincent parce que tu vois tout ce qu'ils font comme travail bienveillant. » Mais j'ose espérer, je ne sais pas si les grandes entreprises vont faire comme on va donner à cet organisme-là parce qu'il aide les potentiels agresseurs. Mais j'espère qu'il y en a qui vont le faire parce que c'est des bénévoles, c'est des étudiants en psycho, en sexologie, tout ça, mais ils sont bénévoles pour aider parce qu'il n'y a pas de financement dans cet organisme-là. Et pour moi, c'est là que les sous devraient aller. Pas, évidemment, pas prendre des sous qui vont à Marie-Vincent puis les mettre là, mais...
Pas exclusivement, mais...
Non, mais ça prend... Il faut absolument mettre des ressources. Quand on dit que les listes d'attente pour les gens avec des déviances explosent, il y avait des articles encore cet été dans la presse, mais ça, ces gars-là, s'ils n'ont pas ce soutien-là, c'est des victimes qui vont faire. Pour moi, c'est comme tellement simple. Je comprends pas pourquoi... Puis je comprends qu'un gouvernement, c'est une grosse machine, puis ça dépasse mes capacités de compréhension. Ça doit être très difficile, tout le monde demande des sous, mais là, c'est un vrai, vrai, vrai problème de société. Puis on parle des enfants, tu sais. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il faut que ça devienne une priorité. Il faut que, comme société, on se dise, nous, on n'accepte plus ça et on en fait une priorité. Et les pays qui l'ont fait ont vu des avancées assez spectaculaires, justement, en matière de diminution de crimes sexuels. Tu sais, je veux dire, c'est ça. À partir du moment où tu prends quelque chose en main puis que tu décides que, nous, on n'accepte plus ça, et nous, c'est ce qu'on souhaitait, humblement, avec le film, susciter une discussion assez intense pour que, justement, on améliore le processus et qu'on réfléchisse à pourquoi on en a autant, pourquoi c'est systémique à ce point ici, tu sais, parce qu'on veut pas ça. Moi, je veux pas ça ni pour moi, ni pour ma descendance, ni pour qui que ce soit autour de moi. Tu sais, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Puis il y en a des solutions et elles sont à notre portée. Tu sais.
Oui, bien, je pense aussi, en parlant avec la gang de Ça suffit, ils me disaient, tu sais, ils se sont beaucoup inspirés de quelque chose qui se fait au UK puis en Irlande, un organisme qui s'appelle Stop It Now. Fait eux se sont inspirés de ça. Mais ce qu'ils me disaient, c'est que là-bas, t'as dans le métro, tu as des affiches là, de prévention. Hey, si tu te sens attiré, j'imagine que c'est pas ces mots-là, mais en gros, si tu sens que tu as un problème ou tu te sens attiré par les enfants, tout ça, appelle-nous, on est là. Nanana. Donc, quand les gens qui ont parti l'organisme ici se disaient, on le sait pas, c'est au Québec, on est prêt pour ça, là, t'sais, affiches dans le métro, tout ça. Mais ce qu'ils disaient, c'est que suite à la publication de la vidéo d'Urbania, ils ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Là. Fait qu'ils se disent, on pensait pas qu'on était prêts, on avait un peu... En sortant la vidéo, on se disait, mais ça fonctionne, on dirait qu'on est rendu là. Évidemment, pas tout le monde. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de ça, mais il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui fait qu'on voit de plus en plus que ça existe, puis on est peut-être prêt à amorcer un changement, en tout cas en parler. Ouais.
Bien, il y a eu moi aussi, il y avait eu agression non dénoncée avant. Tu sais, ça fait quand même quelques vagues là, d'indignation. Puis à un moment donné, c'est parce que c'est beau de s'indigner, mais il faut passer à l'action. Ouais, c'était ça, nous, qu'on a beaucoup dit. Tu sais, parce que là, on ne peut plus juste... nous, on était vraiment, Émilie et moi, en colère, fâchés. Tu sais, beaucoup de gens nous ont dit qu'on a été... qu'on n'a pas été impartial dans un film documentaire, là, à la base, il y a quand même évidemment un propos. On a rencontré des gens, puis la thèse du film s'est dessinée à la lumière des témoignages qu'on entendait. Mais c'est clair qu'au départ, on était vraiment en colère, tu sais, parce qu'on se disait, il y a quelque chose qui cloche, puis on dirait que personne ne s'en rend compte. Maintenant, moi, je suis moins en colère, puis je sais que si Émilie était là, elle dirait la même chose. On est moins en colère parce qu'on connaît tellement le sujet, puis on s'est tellement imprégné, puis on a tellement parlé à des gens qui sont rendus justement au-delà de l'indignation, puis qui ont des solutions, que ça aide quand même à avoir de l'espoir. Fait qu'il y en a de l'espoir. Moi, j'ai espoir. Mais pour ça, ça prend quand même d'autres personnes qui se lèvent avec nous autres, parce que sinon, on n'ira pas loin. Aussi, là.
Puis là, ouais. Là, tu sais, j'ai l'air de la fille qui plug sa pétition, mais en même temps, c'est un peu ça que je vais faire. Là, mais
oui. Mais c'est parce que les gens. C'est quand même une pétition pour le bien commun. Là, oui, je veux dire, t'as pas d'intérêt personnel là-dedans non plus.
C'est pas parti un GoFundMe pour aller au Cacubo.
Non, c'est ça, exactement. On n'est pas là.
Mais cette pétition-là, c'est que souvent, les gens, comme moi, mes amis sortent du film, font hé là, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens tellement impuissant. Ben ça. Signer, puis là, je le sais que c'est compliqué parce que là, il faut signer, puis il faut recevoir un courriel, puis comme confirmer, là. C'est pas juste comme rentrer un formulaire, mais comme.
Est-ce qu'on est rendu à 10 000? Ben, je dis on exclut la personne.
On
approche, qui parle,
on est à 9200 quelque chose.
Parce que là, je pense que c'est à partir de 10 000 quand même qu'à l'Assemblée nationale, ça a comme plus de poids. Ça se peut-tu, je pense?
En tout cas, peut-tu aller voir? C'est quoi le site web? On peut peut-être checker
sur c'est le site de l'Assemblée nationale, asnat.qc.ca.
Moi, tu vois, j'ai le lien pour la pétition dans ma bio. Fait que je clique direct dessus, puis je vais vous donner le chiffre. Nous sommes rendus à 9275. Donc, tous les gens qui entendent en ce moment ou à qui vous parlez puis qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, signer cette pétition-là, ça veut dire on soutient cette idée-là, on soutient ces victimes-là qui ont besoin d'être entendues puis de dire qu'elles ont besoin de se faire mieux accompagner. Puis la pétition demande l'implantation d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle, mais aussi de violence conjugale. Mm-hmm. Tu sais, quand on voit des cas comme, tu sais, la semaine dernière, là, l'adolescente qui a été enlevée parce qu'il y a eu une alerte amber. Ouais.
Son frère.
Ouais. Donc là, moi, je voyais, puis là, peut-être que j'ai pas les faits exacts, mais parce que ça me fait beaucoup de peine quand je lis ça, mais quand je lisais l'article et je vois que l'avocat de la défense d'un des frères qui demandait sa remise en liberté disait « Ouais, mais c'est parce que je voulais la ramener en maison. » Je veux dire, les vidéos montrent qu'elle s'est fait frapper. Et là, lui, il va dire « Ouais, mais moi, je voulais juste la ramener au domicile familial. » Et c'est ça que... Je fais « Ben voyons, c'est juste moi qui trouve que ça n'a pas de calice de bon sens. » Puis premièrement, c'est qui cet avocat-là qui va dire ça? À quel point on banalise la violence faite aux femmes pour dire que non, mais je faisais juste la ramener à la maison. C'est ça que ça disait dans l'article. Je suis comme, c'est épouvantable. C'est cette espèce de culture-là de dire, non, mais, ouais, je l'ai frappé parce que je l'ai remis à sa place, là, tu sais. Je suis comme, voyons donc. Fait que le tribunal, c'est ça. C'est de, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est tout récent, puis ça m'a vraiment, ça m'a rentré dedans, puis ça me montre à quel point on peut banaliser ça. Tu sais, c'est tellement violent, je veux dire, en tout cas, fait, je reviens à la pétition, pardon. Fait, la pétition est pour accompagner les victimes autant de violences sexuelles que de violences conjugales. Qui vont être victimes d'un espèce de traumatisme qui les envahit. Donc, ces victimes-là qui viennent témoigner en cours ne peuvent pas avoir la même lucidité que quelqu'un qui dit « Je me suis fait voler mon char, je l'avais parqué là, puis là, je suis sortie de chez nous. » C'est pas ça. Ouais. C'est mon corps, c'est
puis on demandera jamais à quelqu'un qui s'est fait voler son char. Ouais, mais t'es-tu sûr? Quelle couleur était le mur du garage là où tu l'as mis la dernière fois? Tu sais, je veux dire, il y a quand même des trucs qui sont propres aux agressions sexuelles en cours pour une victime qu'on considère pas et qui, justement, justifie un tribunal spécialisé ou des gens mieux formés avec des limites. Si un criminaliste était assis parmi nous, dirait sans doute « Oui, mais il y en a des limites, les juges interviennent, ça ne dure pas longtemps. » Mais ça dure assez longtemps
pour faire
du tort. Oui, c'est ça.
C'est tellement intense.
Oui, c'est intense.
C'est intense,
oui,
mais
c'est intense.
C'est intense aussi parce qu'on... Moi, mettons, quand on parle d'éducation sexuelle, je trouve que maintenant, on a tellement de ressources. Ne serait-ce que j'ai un studio ici, je fais comme, je peux le prêter à quelqu'un, des sexologues, puis des... J'en connais. Des fois, quand j'entends ça, je suis comme, crime, faudrait que je l'organise. On le donne aux écoles. C'est 20 épisodes de 15 minutes chaque. Avec, puis, tu sais, les étudiants et étudiantes peuvent l'écouter tout seul ou ensemble. Après ça, y a-t-il une place où ils peuvent écrire des questions anonymes? Puis il y a des professionnels qui répondent.
Mais hein.
On a tellement... Je comprends que le prof de maths, c'est pas ça.
C'est pas sa job.
C'est pas sa job. On y en demande déjà assez. Que je fais, je comprends que... Ben, lui, après ça, comment est-ce qu'il fait pour revenir à parler de Pythagore? On a parlé de condoms et d'affaires. Puis là, ben, tu sais.
C'est clair.
C'est
ben
super
oui,
complexe,
c'est
mais je fais, on fait. A plein de ressources.
Mm-hmm. Ouais.
Puis, faut pas. C'est là où je fais juste. Ah, ben, Colin, je sais pas, tu sais.
Il y a une. On a fait un reportage là-dessus à L'Avenir nous appartient. Une sexologue qui a parti son compte TikTok et qui reçoit des questions. Des jeunes sur la sexualité. Puis je veux dire, c'est incroyable. Ils en ont tellement des
oui.
questions. Mais puis ils se tournent vers elle parce qu'elle, elle répond de façon totalement décomplexée. Et puis c'est ça, c'est beau. Puis c'est important surtout qu'il y ait des lieux comme ça où on puisse répondre aux questions. Ça fait des sexualités qui sont plus saines. Et
oui.
c'est de ça dont on a besoin. Tu sais, quand on parle justement de la panoplie de solutions possibles. Mais tu pourrais faire un podcast du type...
en ce moment, c'est que...
Jay présente
ça fait plusieurs,
le consentement.
Mais encore une fois, le pire, c'est qu'il y a une partie de moi qui fait...
Oui.
J'ai reçu sur le podcast Estelle Cazelet, qui est une sexologue exceptionnelle. Ça a été une rencontre géniale. C'est un podcast qui est vraiment, vraiment génial. Puis elle et son équipe, ses collègues sont super, comme sont vraiment solides, puis sont de leur temps. Puis en même temps, sont pas... sont pas non plus durs à comprendre ou overwoke. Il n'y a pas ça. C'est juste sont complètement ancrés dans aujourd'hui, ici, maintenant, puis tendent la main à qui a des questions, tu sais, pour eux puis pour elles. Puis ça fait plusieurs fois que je me dis, crème, faudrait que je fasse ça. Puis pour vrai, à chaque fois que je finis par parler de ça, je fais, je peux pas croire que c'est... Il y a des gens que c'est leur job, j'ai l'impression.
Oui, c'est oui.
Puis je veux pas les critiquer, mais je les connais pas.
Tu sais, c'est comme moi, comme journaliste, animatrice, citoyenne, peu importe là, qui je suis, mais pourquoi c'était moi et Émilie qui devions faire ça, tu sais, à un moment donné. Puis avec tout ce qui est arrivé cet été, je suis comme, hey, j'étais-tu bien moi, dans mon salon, justement, à boire un verre de vin orange, parce que j'aurais pu faire ça cet été, tu sais.
C'est ça.
Mais j'ai décidé que moi, cette société-là, j'ai envie qu'elle avance et j'ai envie de la challenger, parce que le statu quo, c'est bien beau, là, mais en même temps, ça fait du tort, surtout dans ce contexte-là.
Mais c'est
fait que tu dis, pourquoi moi, mais en même temps, qui d'autre sinon?
Mais aussi, je veux juste faire une parenthèse parce que tantôt, tu as dit vous vous êtes rencontrés dans le cadre du film, mais moi, Émilie, c'est une bonne amie.
Okay.
Puis c'est quand, après l'affaire Ozon, tout ça, elle dit, hey, y a tellement de... On reçoit tellement de témoignages, le système de justice, on va faire un film, Monique et moi, nanana. Puis on se connaissait déjà depuis quelques années, puis en rentrant chez nous, j'ai envoyé un mail, où je me souviens plus si c'est en lunchant, mais j'ai fait « Hey, Émilie, ben moi, c'est à ce moment-ci que je vais te raconter mon histoire, parce que moi, je rencontre pas une amie en disant le premier soir, « Hey, moi, j'ai été agressée enfant, tout ça. » Puis je me souviens, après que je lui ai avoué, elle m'a écrit en disant « Je peux pas croire que je savais pas ça, tu sais, c'était à côté de moi. » Moi, j'étais heurtée par ce sujet-là, de voir que dans la société, c'est là, puis même une de mes bonnes amies à côté de moi vivait ça. Puis c'est ça, je dis pas que c'était ça son élan, puis c'était pas le cas parce que le film était déjà en cours, mais c'est pour dire à quel point c'est autour des fois, puis on n'a même pas conscience de ça, puis je pense que ça a contribué à l'habiter encore plus, puis à faire « OK, ben on va le faire, on va continuer ce film-là. » En plus, moi, dans mon entourage, je savais pas, c'est partout.
En fait, c'est que c'est dans l'entourage de
tout
le monde.
Ben, c'est oui. ça.
Partout, qu'on le sache ou non.
Oui.
Exact. Exact. Moi, je pense qu'une grande chance dans ma vie, c'est que j'ai grandi avec des filles. Moi, j'ai deux sœurs. Ma grand-mère était beaucoup avec nous quand on était kids. Ma mère et tout ça. Ma mère et mon père sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans. Fait que beaucoup, beaucoup de femmes dans mon entourage. Maintenant, j'ai trois nièces, un neveu. Mais t'sais, trois nièces. Puis je pense que ça a fait en sorte que je suis quelqu'un d'assez doux. Je suis très loin d'être parfait. Puis j'arrête pas d'apprendre. Puis c'est ce que je trouve rassurant. C'est que quand il y a des mouvements comme moi aussi qui arrivent, ben moi puis mes amis, ben on s'est parlé, puis on s'est posé des questions, puis on s'est remis en doute, puis j'ai parlé avec mes sœurs, puis j'ai parlé avec d'autres amis filles, des ex, des... Faire, là, on... Puis d'apprendre, tu sais, de se poser des questions. Puis souvent, c'est super inconfortable.
Mais qu'est-ce que tu... Excuse-moi,
tu demandais, j'ai toujours été correct?
Est-ce que tu demandais par rapport à toi, tu demandais vous autres, est-ce que ça vous est arrivé? C'était comme...
Les deux.
OK.
Les deux.
Puis t'as été surpris des réponses que t'as eues?
Mais c'est pas tant que je voulais... Je voulais pas... Tant,
savoir l'info, tu voulais engager la discussion.
Il y avait beaucoup de... Est-ce que moi, j'ai fait sentir quelqu'un pas bien?
Oui.
Il y a beaucoup d'hommes qui
se sont sentis comme
qui
ça.
Se sont sentis comme
ben,
ça.
Puis, pour vrai, je vais dire tant mieux. Là, c'est correct d'apprendre. Tu sais, j'ai pas agressé personne, mais je me suis remis en question. Puis après ça aussi, des fois, j'ai fait « Hey, moi aussi, j'ai vécu des shit. »
Ah ben, c'est arrivé dans le film. Il y a il s'appelle Sarto, là, dans la scène d'ouverture du film. Et lui, il s'est posé exactement cette question-là. Est-ce que moi, j'ai toujours agi correctement jusqu'à ce qu'il réalise que lui-même avait été enfant victime? Il n'avait comme pas pensé tout de suite au fait qu'il avait été victime, mais il avait pensé, par exemple, au fait qu'il avait pu peut-être faire des victimes. Mais donc, tu disais que toi aussi, c'est ce que tu as...
Mais c'est que moi, pour vrai, les personnes souvent que je trouve les plus... inquiétante, c'est celles qui ont aucun doute.
Oui. Qui prennent pas le temps de se poser la question, exact. Est-ce que j'ai mal agi ou est-ce que j'aurais pu...
Exact. Puis encore une fois, moi, c'est pas tant... c'est que en plus, dans l'idée, mettons, de faire un podcast là, d'éducation sexuelle, c'est qu'il y a une petite partie de moi qui fait... Pour vrai, on a un travail aussi à faire. C'est que là, tout passe via les vedettes.
Ouais.
Prémâche, là, explique-nous là, cette affaire-là compliquée qu'on n'a pas le goût d'entendre les professionnels parler. Là. Puis si c'est porté par une vedette, ben on va le faire ou on va l'écouter. Puis je comprends que même moi, je suis le premier là, comme consommateur à faire. C'est bien plus facile. Je vais vraiment plus vers les visages connus que d'aller écouter des podcasts ou des émissions leadées par des professionnels. Mais là, je fais, hey, on a à revoir ça aussi. Il faut comme redonner. Il y a plusieurs, j'en ai parlé souvent sur le podcast, mais il y a plusieurs années de ça, on était à Noël, puis je commençais à faire de la télé, puis mon père m'avait dit, comme, vous prenez trop de place dans les médias, les artistes. T'sais. Puis moi, sur le coup, mon orgueil, tu sais, je commence à pratiquer ce métier, je suis comme, mais voyons, c'est notre job. C'est... Puis là, j'étais comme reparti, puis je suis comme, astille, les médias, c'est tellement plus grand que les artistes, tu sais, c'est tellement d'affaires, puis les professionnels en font partie, mais ils ont une petite partie comme cute, tu sais. Mais je suis comme, ah, faut comme retravailler l'oreille pour comme offrir cette place-là, parce qu'il y a plein d'éducation qui peut passer par là aussi, tu sais. Puis, fait qu'il y a une affaire là-dedans aussi où je fais, ben, peut-être aussi que je fais juste faire une passe à la palette
ben,
à quelqu'un.
Ça peut être ça, ouais, en fait. Ça. Ben oui, absolument. Tu sais, parce que, en effet, c'est pas nécessairement ta responsabilité d'éduquer sexuellement toute une génération, Jay. Parce que c'est quand même intense, là, comme on voudrait pas. T'as d'autres choses à faire aussi, là, tu sais. T'as une vie. Mais c'est vrai, de passer à POC et de. Tu sais, souvent, on utilise notre notoriété à bon escient. Je pense que ça vient aussi avec ça, tu sais. Quand t'as un micro, quand on te fait confiance comme personnalité publique, médiatique, tu sais, ça vient aussi avec, je pense, une certaine forme de responsabilité. Moi, je me suis toujours sentie comme ça depuis que j'ai un micro. Tu sais, je peux pas faire n'importe quoi avec ce micro-là. Mm-hmm. Je trouve que c'est important quand même, autant que possible, d'être utile à notre façon.
Puis moi, j'ai peut-être moins d'espace médiatique. Bien, j'en ai définitivement beaucoup moins que vous deux. Mais une des raisons pour laquelle, moi, j'ai décidé de participer au film et de prendre la parole... Même si c'est un peu bizarre avec mon métier de comédienne où normalement j'interprète des rôles, c'est que moi, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu avec le système de justice, quand ça a été refusé, je me souviens d'avoir vécu une détresse si grande. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a eu des pensées suicidaires jamais dans ma vie, mais je me souviens d'avoir nommé à des amis, là, je sais plus comment je vais m'en sortir. Je sais pas comment faire. C'est tellement grand, ma souffrance, que je sais pas comment je vais y arriver. Mais inquiète-toi pas pour moi. Mais je sais pas comment je vais y arriver. Puis j'avais pas de modèle à ce moment-là. Je pouvais pas regarder quelqu'un en faisant comme, OK, elle ça marche, je vais m'accrocher à ça. Fait que moi, le moment où j'ai décidé de participer à ce film-là, premièrement, ben, c'était parce que je savais que je serais entourée de bienveillance avec Émilie et Monique, mais c'est aussi parce que je voulais vraiment que si une seule personne voit ça, elles se disent, OK, ben cette fille-là, elle a réussi à se reconstruire malgré ça, donc peut-être que moi, je vais réussir.
Et là, tu peux dire mission accomplie, tu sais, hein?
Oui, ben, je, parce que
en
je reçois
moi, je
des...
te le dis, parce que c'est ça. Ouais.
OK.
Ben. Mais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, mais... cette prise de parole-là, elle sert déjà énormément de gens.
Mais tant mieux.
Merci pour ça.
Mais c'est vraiment mon souhait. Moi, si je disais à Émilie en faisant le film, s'il y a une seule personne qui se dit « Ah, si, ça se peut, tu sais, je vais... là, c'est tough, mais je vais m'en sortir », ben tant mieux, tu sais, ce sera ça de fait, parce que... Puis là, je vais ressortir des stats, mais les enfants les enfants qui vivent des agressions en bas de 13 ans ont des pensées suicidaires. Puis il y en a qui font des tentatives. Mm-hmm. C'est pas normal à 8 ans de faire une tentative de suicide. Un enfant, c'est la joie de vivre, c'est pas l'envie de mourir, tu sais. Fait que c'est vraiment ça.
T'sais, ça exclut Émilie et moi, là, encore une fois, mais il y a eu des démarches judiciaires à la cour pour permettre à Charlotte, qui est dans le film, de s'exprimer. Charlotte a 10 ans aujourd'hui. Elle a été victime à l'âge de 3 ans et demi. Elle participe au film et c'était bien important pour elle de le faire à visage découvert parce qu'elle se disait « Moi, je n'ai pas à avoir honte de ce qui m'est arrivé. » Et du haut de ses 10 ans, elle s'est présentée devant un juge pour demander l'autorisation qu'on ne brouille pas son visage. Tu sais, c'est assez exceptionnel. Et nous, pourquoi c'est important qu'elle soit là dans le film et qu'on puisse la voir s'exprimer, c'est que si on prend le plus tôt possible ces enfants-là, parce qu'on ne pourra pas éradiquer là, à 100% jamais, mais si on les encadre et qu'on leur offre l'opportunité de le dire et qu'on les accompagne par la suite, ça va faire des gens moins poqués.
Ben oui.
T'sais, c'est ça qui se passe avec la petite Charlotte qui est absolument exceptionnelle, qui veut d'ailleurs devenir soit avocate et après ça juge, comme elle le dit si bien. Il y a quand même quelque chose de grand dans cette petite femme-là qui a décidé, elle, d'être un visage d'enfant. Et c'était la première fois, ça a fait jurisprudence, la première fois au Canada. Il n'y avait aucun
jugement.
Mais oui, parce
qu'il y a des ordonnances de non-publication quand c'est des mineurs.
Ouais. Et c'est arrivé une semaine avant le film. Une semaine avant le film, le jugement est sorti, donc on a pu débrouiller son visage.
Parce que, tu sais, la population se dit, hey, on a été ébranlés par le mouvement, moi aussi. Tu sais, toi, tu le dis en tant qu'homme, tout ça, mais... Imaginez s'il y avait un mois aussi des enfants. T'sais, moi, c'est pour ça que je veux prendre la parole. 4400 la dernière année, puis ça, c'est juste des cas signalés. Là. Fait qu'il y en a beaucoup plus. Là. Fait qu'imaginez si ces enfants-là étaient dans l'espace médiatique en disant, ben moi aussi, ben moi, on me fait ça à 4 ans. Moi, on fait... Parce que le mouvement, moi aussi, c'est ça que ça nous a fait. Ça nous a tout shaké en faisant, OK, un tel... Mais si on avait conscience, si ces enfants-là étaient dans le paysage médiatique, on ferait « OK, il est là le problème, il est vraiment là ». Mais on dirait que le fait que ces enfants-là, on protège leur identité, ce qui est tout à fait normal, mais le fait que ce soit pas publié, qu'on les voit pas prendre la parole en disant « Moi, ça m'est arrivé », bien moi, c'est ça qui me pousse à prendre la parole en disant « Ça arrive », parce qu'on, à part Charlotte, mais Charlotte en est un exemple criant que ces enfants-là n'ont pas de place, puis quand ils veulent l'apprendre, ben, c'est complexe pour eux.
Ah, ça a été complexe, absolument, tout à fait. Il a fallu qu'elle passe à travers tout un processus là, judiciaire pour qu'on lui permette de le faire, puis il y aura pour toujours un jugement qui témoignera de ça. C'est important ce qu'elle a fait, là. C'est important. Parce que ça fait partie de la fameuse phrase qu'on a beaucoup entendue, mais qui est donc importante, que la honte change de camp.
Ouais.
C'est pas aux victimes à avoir honte. C'est pas aux victimes à se cacher.
Non, c'est
si
ça,
elle le souhaite, oui. C'est-à-dire qu'il y en a, évidemment, qui veulent demeurer anonymes et c'est tout à fait correct.
Mais oui.
Mais il y a une différence entre demeurer anonyme et l'affaire, c'est que ce que ça crée chez une victime d'agression sexuelle, c'est avoir honte de son corps aussi. C'est oui, avoir honte de ce qui est arrivé, mais avoir honte de qui on est, c'est tellement... ça envahit tout, l'âme, le corps, ça envahit tout notre être. Fait que à un moment donné, même physiquement, il y a quelque chose dans la démarche. Tu sais, quelqu'un à qui on vient de faire mal ou qui est triste va marcher plus recroquevillé. Ben, imaginez une victime d'agression, c'est un peu ça. Puis, à un moment donné, moi, c'est ça que je me disais. C'est pourquoi moi, je marcherais la tête basse à cause de ce qu'on m'a fait comme mal quand j'étais enfant? Pourquoi moi, j'aurais du mal à me tenir droite puis à regarder les autres dans les yeux parce qu'on m'a fait du mal quand j'étais petite? Ça fait pas de sens. Puis c'est ça que j'ai envie de dire aux autres victimes d'agression, c'est pourquoi nous, parce qu'on a profité de notre vulnérabilité, pour là, on serait moins forte dans la vie. Non, c'est votre problème à vous. Tu sais, on vous redonne ça. Je te remets ça entre les mains. Toi, tu me fais ça, bien, c'est ton esti de problème. Je te remets ça. Moi, je me reconstruis, puis moi, je vais me tenir forte. Je ne laisserai pas ce que tu m'as fait m'abattre. Mais pour faire ça, ça prend des années. Puis c'est pas tout le monde qui va y arriver. Puis même, moi encore, ma vie serait tellement plus simple si ça m'était pas arrivé ou tellement plus simple si on m'avait aidée petite. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on aide les enfants. C'est qu'un enfant qui ont dit « je te crois, je le sais, je comprends ce qui vient de t'arriver, c'est très, très grave, on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider », bien, au moins, il se sent soutenu. C'est grave ce qu'il a vécu, mais les centaines et les milliers de personnes qui ont vécu ça puis que c'était occulté ou qu'on a dit « non, non, c'est pas... » ou « hey, t'sais, ferme ta boîte avec ça, on veut pas t'entendre parler. » Ces adultes-là, évidemment, ils sentent que... Moi, Émilie m'avait demandé pendant le film... Est-ce que tu penses que la honte a changé de camp? Puis j'étais comme, ben non. J'étais partie à rire en disant, ben non. Puis le tournage a été, c'était il y a 2 ans et demi. Puis j'étais comme, ben non, Émilie, tu sais. Non, la preuve. Puis dans ce temps-là, tu sais, Roson et Salva étaient sortis dans les médias. Puis leur façon d'être tellement arrogante, puis de dire que c'est pas arrivé, puis de répondre, j'étais comme, ben non, la honte n'a pas changé de camp encore. Mais là, petit à petit, je pense que c'est en train de se passer.
Tranquillement.
Tranquillement.
Il y a quelques jours à peine, il y a une jeune femme, début vingtaine, qui est venue me voir et qui m'a dit « J'en ai jamais parlé à personne, mais à l'école, plusieurs garçons ont abusé de moi. » Puis j'en ai parlé à une prof. Puis la prof m'a dit « Écoute, t'sais, les hormones, des petits gars, les hormones. Mais si ça se reproduit, reviens me voir. » Elle a porté ça pendant plusieurs années et personne ne lui avait jamais dit avant moi que c'était grave ce qu'elle avait subi. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est tout récent, là. Jeune vingtaine, là. Je veux dire, c'est pas... On n'est pas... Je pense vraiment que... On a nommé quelques exemples aujourd'hui, mais on pourrait en parler vraiment pendant encore plusieurs heures.
Mais t'sais, je parlais à une amie récemment qui me disait on a du mal même à reconnaître qu'est-ce qui est une agression. Puis là, ben, ça a peut-être l'air extrême de dire ça, mais moi, je pense que ça part de quand on est petit, encore une fois, nous obliger à faire des câlins. Des fois, on se sent obligé de faire des choses dès qu'on est enfant. Fait que là, en grandissant, j'ai une amie, elle me dit... elle s'est fait agresser, elle est en vélo. La personne a comme stoppé son vélo puis il a commencé comme à la toucher. Puis là, elle criait. Puis là, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé puis qui a crié. Puis là, la personne s'est enfuie. Mais elle dit, moi, j'ai comme... Je suis repartie travailler en vélo, puis c'est comme une heure plus tard que j'ai fait « Attends un peu, là, je viens de vivre une agression. » Mais comme le temps de computer ce qui est arrivé, c'est pas du tout la même chose que l'adolescente dont tu parlais qui s'est confiée à un prof, mais c'est que déjà, il faut reconnaître ce qui est arrivé, puis pour ça, bien, ça prend de l'éducation, ça prend... faut en parler comme on le fait aujourd'hui. Il faut en parler de plus en plus. Mais les filles, ça arrive tellement des situations où tu fais, ben là, il y a ça qui s'est passé, mais c'est-tu correct ou pas correct? C'est-tu moi qui n'est pas correct? Ou c'était-tu acceptable ou inacceptable? On le sait plus, tu sais. Puis c'est, je pense que ça vient dans cette éducation sexuelle-là, éducation au consentement, de faire, ben ça, si t'es pas sûr à 100%, t'as pas à faire ça. Mais tu sais, combien de filles à qui j'ai parlé, moi, qui font comme, ben là, mettons, j'étais déjà chez le gars, fait que je me disais, ben tant qu'à être là, je peux pas vraiment y dire non. Tu sais, ça arrive très, très souvent, tu sais, malheureusement.
Il y a quelque chose aussi dans, je trouve, qui est récurrent dans toute cette conversation-là, puis c'est le respect des limites. Puis ouais. C'est là où, des fois, c'est là où c'est difficile. Je peux comprendre pour le milieu juridique, parce que c'est comme, ben, il faut mettre comme des lois, des règles, mais c'est un peu tout le temps du cas par cas.
Mais absolument.
Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes limites.
Ben non, c'est ça. C'est exactement ça.
Puis c'est là où je pense qu'il faut retrouver l'idée de l'humanité, tu sais, l'humain, de remettre l'humain comme en priorité sur tout. Remettre l'humain avant tout. Avant le plaisir des autres, avant l'argent, avant l'humain. Toi, l'humain, c'est quoi ton affaire? Puis d'être à l'écoute. Puis après ça, ce qui est dur, c'est que je trouve que dans cette conversation-là, il y a beaucoup de gens qui ont peur des débordements.
Oui, oui.
Puis c'est comme on est loin de déborder, là. J'ai pas l'impression. Après ça, encore une fois, je sais rien. T'sais. Mais j'ai pas l'impression que.
Ben, y a beaucoup de gens qui parlent souvent des fausses condamnations, des fausses plaintes. Ça a pris tellement d'espace dans l'espace public ou dans la tête des gens, à la limite, t'sais, qu'on veut pas. Évidemment, on veut pas condamner d'innocents, mais les fausses plaintes. Alors que les fausses plaintes, c'est un tellement faible pourcentage. Ça, là, ouais. Alors, on a mis dans l'ombre toutes les vraies plaintes parce qu'on s'est trop concentré sur le petit pourcentage de fausses plaintes qui, souvent, avec les mécanismes en place, policiers, procureurs et tout ça est rapidement détecté. Tu sais, c'est bien rare là, que ça va passer les étapes justement de d'autorisation parce qu'on a des mécanismes pour détecter ça. Encore là, c'est tellement un faible pourcentage. Mais pendant tellement d'années, de décennies, on n'a pas parlé de la grande, grande majorité à qui ça arrive pour vrai.
Mais aussi, ce qui arrive souvent, c'est ce qu'on se fait dire. Là, encore une fois, je vais parler au nom des victimes d'agression, mais ce qu'on se fait dire, c'est on te croit. Ça, c'est épouvant. On te croit, mais ce ne sera pas assez fort. Tu ne seras pas assez forte pour un procès. T'imagines-tu un avocat là, qui te demande tout ça? Ça ne marchera pas. Moi, tu sais, il y a une fille qui s'appelle Agnès qui avait sorti une vidéo l'été dernier puis qui a signé une lettre ouverte qu'on a écrite dans la presse il y a un mois. Elle dit que c'était la victime parfaite. Là, elle est allée au policier, elle a fait la trousse médico-légale. Après ça, quand elle a rencontré les deux procureurs qui étaient des femmes, les deux femmes ont fait « Écoute, on a eu des cas pas mal plus intenses que toi puis ça n'a pas passé. Fait que on te croit, mais tu sais, on ira pas. » Puis, ben tu sais, si tu vraiment un viol, tu sais, nous autres, des fois, ça ne nous tente pas de coucher avec notre chum, là, tu sais. Ils ont vraiment dit ça. Ces deux femmes, elles ont dit ça. Fait qu'imagine une victime qui trouve tout le courage d'aller faire ça, puis qui se fait dire ça par deux femmes, en plus de qui tu penses un peu avoir de l'empathie, un peu. C'est épouvantable. Mm-hmm. Fait que, ben, ce cas-là, moi, me révolte, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est ça, ce qu'on devrait faire, c'est pas dire à la victime, t'es pas assez solide, c'est OK, mais regarde, toi, tu dis que c'est ça, moi, je te crois. Allons au bat, puis on verra en cours qu'est-ce qui se passe.
Absolument.
Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que si on voit qu'on a peut-être des chances de rater, on va pas y aller. ça fonctionne pas.
Sophie Gagnon de Jury Pop le dit. On gagnerait présentement à en autoriser un petit peu plus quand on croit qu'un crime a été commis.
Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Moi, on me dit, l'enquêteur me dit à un moment, on est allé rencontrer un de tes agresseurs. Il a été très, très agressif et violent. Il a réagi. On doute pas de toi, là. T'sais, on te croit. Fait que se faire dire ça, moi, j'ai plein d'espoir à ce moment-là. Puis se faire dire après, non, on n'ira pas, on va pas retenir. C'est un stress. C'est comme, puis là j'épargne les détails de tous les mois d'attente parce que c'est très, très long. Fait que à partir du moment où une victime d'agression fait sa déposition, il y a comme un stress qui embarque de qu'est-ce qui se passe là, on va-tu, puis on n'est pas toujours tenu au courant, combien de temps ça va prendre, on ne le sait pas, des fois ça prend des semaines, des mois, là on nous revient, on dit, ok, ben là on te croit, ok, on me croit, good, ok, là ça continue, puis là finalement, ah ben non, c'est ça, fait qu'on te croit, on est là, mais non, on n'ira pas. Qu'est-ce que ça envoie comme message, ça? C'est comme, on nous dit dénoncer, on nous dit allez-y, puis on nous croit, mais on n'ira pas en cours. Puis c'est là que moi, je trouve qu'il faut déjà qu'il y ait un changement de faire. À partir du moment où on dit à quelqu'un, on te croit, pourquoi on ne va pas en cours, puis on ne laisse pas les choses se produire, puis évidemment, en les accompagnant mieux, en formant tous ces acteurs-là du système pour qu'ils soient conscients de la réalité des traumas que ces gens-là vivent.
Ça faisait aussi partie des raisons initiales pour lesquelles on a fait le film. On vous croit, mais. Ça, il y en avait autant à l'étape de l'autorisation qu'au moment des jugements. T'sais, j'en ai lu des jugements d'agression sexuelle là, à la tonne, OK? Puis t'arrives à la fin du processus et je ne crois pas l'accusé. Je vous crois, mais j'acquitte. Parce qu'il y a quand même un doute raisonnable sur le fond.
Mais Annick Charrette.
Annick Charrette, c'est ce qui est arrivé. Mais Annick Charrette, c'est un cas connu, mais dans l'ombre, là, il y en a ben oui, tellement, absolument. Fait que là, on vous croit, mais imagine comme victime, je peux même pas imaginer. Tu te fais dire, donc je te crois, ce que tu me dis, là, je crois que c'est arrivé.
C'est avéré fou.
Mais ton agresseur, ben il va pas être condamné.
C'est avéré fou.
je peux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer.
Est-ce que c'est, encore une fois, c'est juste de renforcer l'empathie comme dans un milieu qui est très sérieux puis rigide, mais de faire...
Ah, mais là, c'est pas de l'empathie, c'est de faire... Ben, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, mais dans le sens, c'est... Non, mais c'est non, mais je peux complètement comprendre. Dans le sens, c'est de faire... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent pas à la place de... Et si c'était moi ou si c'était ma sœur? Moi, j'ai des nièces maintenant, j'ai de la difficulté à penser à ça, tu sais, parce que je fais, hey, je sais pas comment je pourrais agir.
Mais en même temps, c'est pas leur job non plus
Non, c'est
de se mettre à... fait que c'est là qu'on peut pas leur demander ça, mais ce qu'on peut leur demander, c'est d'écarter leur biais, tu sais, leur biais inconscient dont on parle dans le film, mais que tu sais, on a tous notre expérience, puis on a tous, si on drop sur la table un sujet de discussion ici, on va tous avoir des opinions qui viennent de qui on est, de tu sais, si on parle ben d'agression, moi je l'ai déjà vécu, je vais devenir d'un coup shaky puis super émotive. Si on parle de d'enfants, puis que toi, t'as des nièces, tu vas devenir plus fragile en pensant à tes nièces si on parle d'un enfant qui s'est fait frapper. Fait que tout ça nous habite. Fait que c'est juste que les acteurs de ce système-là soient conscients de ce qui habite les victimes, mais qu'ils soient conscients aussi de ce qui les habite. C'est comme si, mettons, le juge, lui, son beau-frère, s'est fait faussement accuser. Ben peut-être qu'il y a un esti de gros biais en se disant « Hey, là, faut pas que ça arrive à d'autres gars. Fait que moi, tu sais, je peux te dire que j'en déclarerai pas beaucoup coupable. Tu sais,
après ça aussi, c'est une conversation qu'on a dans le sens où je peux même pas m'imaginer c'est quoi la vie d'un juge. Tu sais, ça.
Mais, hey, t'sais, mais...
tu veux pas l'envoyer l'innocent en prison,
c'est
là.
Ça, c'est ça. Ouais, moi,
j'ai vu à peu près tous les films qui existent sur des fausses condamnations. Ah, j'aime beaucoup les films judiciaires, évidemment. Puis à chaque fois, là, je veux dire, ça vient me chercher. Là. C'est des vies détruites aussi, là. Ouais. On ne veut pas ça.
Non, c'est ça.
Mais à partir du moment où, justement, on le sait puis on accepte ça comme système, prenons soin des victimes comme il faut, par exemple.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, le message. C'est des vies détruites aussi, oui. de victimes d'agression qui ont le courage de dénoncer, de se rendre à la police, de faire « Ah, OK, ben finalement, il va être encore là. Il va faire d'autres... » Tu sais, j'ai eu le témoignage d'une maman, d'une petite fille de 8 ans qui a été agressée. Ils sont allés voir la police ensemble puis ils se sont fait dire « Ben votre petite n'est pas assez solide, là. »
J'en ai entendu beaucoup de ça.
Ben c'est ça, ouais, on en a beaucoup reçu.
Parce que le témoignage de l'enfant, tu sais, l'enfant est capable de dire certaines choses, mais il y a des failles dans le témoignage, donc on décide qu'on n'a pas ce qu'il faut pour baser uniquement, par exemple, sur le témoignage de l'enfant. Mais déjà qu'un enfant utilise souvent des mots que, bon, et tout, ça devrait en soi être suffisant pour aller de l'avant, mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Puis c'est beaucoup des parents là, qui m'écrivaient, moi aussi, à l'époque, pour me dire « Mon garçon, ma fille, ça n'a pas été possible pour exactement pour ces raisons-là. » Donc, c'est complexe, mais...
Dans tout ce processus-là, comment vous avez réussi à garder espoir? Qu'est-ce qui vous a offert, ça?
Ben moi, personnellement... Moi, j'ai envie que le monde change. Puis ce qui me fait garder espoir, c'est l'atrocité de ça, en fait. Puis là, moi, je parle encore beaucoup des crimes envers les enfants, mais mon espoir vient de là, je pense. Je me dis, bien, ça se peut pas qu'en tant que société, on continue à accepter ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est peut-être triste et malheureux, mais mon espoir vient de là, d'allumer les yeux du plus de gens possible pour que les gens fassent comme, oh shit, ça arrive, faut vraiment, vraiment qu'on agisse. Fait que mon espoir, je me dis, si tout le monde est au courant de ce qui se passe pour vrai, et ce film-là aide à voir ce qui se passe pour vrai, si tout le monde se rend compte de ce qui se passe, bien là, peut-être que là, tout le monde va se mobiliser puis va faire, bien voyons, oui, faisons ça comme toi tu viens de le faire. T'sais. Puis là, je reviens à quelque chose en arrière, c'est ce que je trouve malheureux dans certaines critiques du film, quand on s'est attardé à des chiffres et tout ça, c'est qu'on passe à côté du premier travail du film qui est d'éveiller les gens, de montrer comment ça fonctionne. Je trouve ça dommage parce que s'il y a des gens qui se disaient « Ah, j'étais pas sûre d'aller voir le film, là, ouais, j'ai lu tel article », c'est pas ça. Mettons ça de côté parce que ce qu'il faut faire, c'est aller voir qu'est-ce qui se passe pour après prendre part à la discussion qui doit avoir lieu.
Et comme je le disais, ça fait partie de mes espoirs, justement, ou des bougies d'allumage de mon espoir à moi. Les gens qui sont venus nous voir après le film, qui sont dans ce système-là et qui sont d'accord pour dire qu'il y a vraiment des trucs qui tournent pas rond.
Là, moi, t'as piqué ma curiosité quand t'as dit ça, parce que moi, j'étais pas dans les Q&A avec vous. Ouais. Fait qu'il y a vraiment comme des... C'était surtout
procureur
quoi, des
de la
avocats?
Couronne, il y a eu des criminalistes aussi, il y a eu des policiers, beaucoup, beaucoup, beaucoup
c'est
de
vrai?
Policiers. Parce que les policiers, dans le fond,
exemples,
là, il y a des policiers, écoute, il y a des policiers qui m'ont, j'en ai reçu à la tonne des messages là, dans les dernières semaines, qui disent, si vous saviez, Mme Néron, si vous saviez à quel point ça nous frustre parfois qu'un dossier ou un autre dossier ne soit pas autorisé, on ne comprend pas bien souvent. T'sais, le dossier est étoffé, il y a une victime qui est comme, somme toute, assez solide. On ne comprend pas pourquoi. Donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, OK, la thèse qu'on a défendue dans le film, là, elle se matérialise sur le terrain. Et dans la foulée du film, et parce que des gens ont vu le film, on nous confirme ça. Donc, moi, ça me donne espoir. Pourquoi? Ça veut dire que ce sont des gens dans le système qui reconnaissent que ça ne fonctionne pas, et c'est la base même pour opérer un changement. Deuxième, à bougie d'allumage d'espoir, le ministre de la Santé, de la Justice, ben, puisqu'il a bougé un peu, hein, Simon-Jolin Barrette, qui est volatile. Simon-Jolin Barrette, donc, qui est le ministre de la Justice, qui avait, j'ai senti, un sincère désir d'explorer l'avenue d'un tribunal spécialisé.
Oui, il était à la première, puis moi, il est venu me voir, puis je veux dire, ça ment pas l'émotion, les yeux d'un être humain. Là, il était visiblement très, très, très ému. Après ça, c'est sûr, quand être ému et poser des gestes concrets ou dire oui, on veut, je sens bien sa volonté d'agir, mais je comprends aussi que cet homme-là est au sein d'un gouvernement qui est une grosse, grosse machine. Puis là, je reviens avec la pétition, mais c'est vraiment ça. La pétition demande un engagement puis une date, là, pas juste dire « Ah, ça nous intéresse, ce tribunal-là », c'est comme un engagement à implanter un tribunal spécialisé d'ici la fin du mandat de la CAQ.
Ça prend de la volonté citoyenne et de la volonté politique. C'est un combo, en fait. C'est ça qui va devoir se passer. Et je pense que le fait d'avoir quand même mis en lumière certaines solutions, tu sais, l'éducation par rapport à la neurobiologie des traumas, par exemple, au bien conscient. Il y a toutes sortes de choses. Ça, on ne l'a pas dit, là, mais ce qui nous a frappé, là, moi, ça m'a jeté à terre littéralement. Au Canada ailleurs dans le monde, on utilise la neurobiologie des traumas en salle de cours. T'sais, on fait venir des experts pour expliquer pourquoi une victime ne se souvient pas de telle année à telle année, mais se souvient de telle année à telle autre année. T'sais, je veux dire, il y a une explication dans le cerveau. Tu fais venir un expert, puis après ça, cet expert-là explique au juge, puis OK, parfait, ça a du bon sens. Au Québec, là, on n'est pas là. On n'utilise pas ça, la neurobiologie des traumas, alors que je pense qu'on gagnerait tous d'abord à l'introduire dans nos salles de cours. Ça viendrait peut-être aider justement la compréhension d'un traumatisme et d'un choc post-traumatique chez une victime. Ayant vu ces solutions-là, ayant parlé à des gens qui ont ces solutions-là, mon espoir a grandi aussi. Et comme je le disais un peu plus tôt, je suis passée de l'indignation pure et dure à une forme de « OK, tu sais, je pense pas qu'on ait fait ce travail-là pour rien. Je veux pas qu'on ait fait ce travail-là pour rien. Si tu savais, comme je veux pas, je vais me gérer, là, je veux pas être émotive, mais c'est tu sais, quand je faisais ça, je me disais « Peut-être que ce sera le plus grand leg que j'aurais fait dans ma carrière, tu sais, parce qu'on s'attaque à quelque chose de gros, mais je pense que c'est foncièrement important. » De le faire. T'sais, il fallait que quelqu'un prenne le flambeau. Puis, et comme je disais, il y a des gens qui nous ont dit, ça me fait un peu rire, t'sais, qu'on s'était positionné en victime cet été. Je suis pas une victime. Là. Tapez-moi sur la tête tant que vous voulez. J'en ai rien à serrer. Ce que je souhaite, c'est que ce soit pas vain. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on prenne ce travail journalistique-là qui, oui, avait une certaine forme d'éditorial. Parce qu'avez-vous vu des changements dans l'histoire de l'humanité qui sont pas partis sur une écœurante titre du public ou de... Tu sais, ça prend comme une indignation, comme levier de changement. Mais c'est ça qu'on a fait avec La parfaite victime, tu sais.
Oui, puis l'espoir aussi, tu parlais d'espoir, puis pendant que tu parlais, ça me fait penser aussi au rapport Rebâtir la confiance. Moi, quand j'ai vu que quatre députés de quatre partis différents se sont unis pour faire des recherches, pour étudier comment on peut mieux accompagner les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles, premièrement, j'étais tellement émue de voir que quatre femmes de quatre partis politiques différents s'unissent pour ça. Je suis comme, wow, OK, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Ils ont déposé un rapport avec 190 recommandations.
190. Ça, là, c'est 190 failles ou trucs à améliorer dans le système. Le film, là, c'est parce que ce qui était plus choquant, c'est qu'on le met en pleine face du monde. Mais 190, tu sais, on est bon au Québec pour tabletter des rapports.
Ouais.
Ben, il y en a 190 là-dedans.
C'est fait énorme. Moi, c'est là que j'ai vu ce rapport-là être déposé. Je savais que le film s'en venait. J'étais comme habitée de ça. Moi, j'ai appelé Véronique Yvon en faisant comme bonjour, moi, je suis Lily Thibault, je témoigne dans ce film-là, puis là, j'ai vu votre rapport, puis moi, ma crainte, c'est que votre rapport soit tabletté parce que je trouve ça merveilleux ce qui a été fait comme travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'ai dit, moi, mettons, comme citoyenne, je peux-tu partir une pétition? Elle fait, ben oui, il n'y a rien comme un mouvement citoyen. Je fais, parfait, moi, je veux faire ça. On peut pas laisser un mélange entre un tableau puis un rapport. Ce rapport si important être tabletté alors qu'il contient des informations exceptionnel. Je veux dire, c'est des mois de recherche. Ils ont entendu des gens de toutes sortes, des spécialistes venir témoigner pour faire comment, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment ça peut... C'est pas juste une tape sur les puis une grosse critique du système. C'est une critique, mais surtout constructive, en faisant, hey, il y a 190 recommandations, là. C'est pas juste une critique, il y a des choses qui marchent pas et voici comment on peut améliorer. Puis le tribunal spécialisé en est
en
une
fait partie. Parmi ils ont senti la résistance en coulisses des travaux de ce comité-là. On a appris, évidemment, c'est tout ça off record, mais qu'il y avait senti la résistance de la magistrature, de certains juristes, des gens qui... Donc, ils savent qu'il va y avoir cette levée de bouclier-là.
Mais ils ont aussi senti... Des gens, comme tu le disais, des gens qui, des anciens avocats, une ancienne juge, mais qui disait, moi, je suis totalement en faveur de ça. Il y a quand même un peu d'espoir.
Ah, il y a de l'espoir, mais
il y en a certainement.
On n'a pas le choix,
sinon on s'arrête d'avancer, de vivre.
Exact, c'est ça, la vie continue, on existe en ce moment. Il faut trouver le moyen de garder espoir.
As-tu espoir, toi, avec ce que tu entends?
Comme je viens juste de dire, en fait, c'est que on en parlait avant d'ouvrir les micros, Lily et moi, où je sens que c'est très tendu ces temps-ci. Puis je l'ai senti aussi quand, tu sais, j'ai reçu Émilie avant que le film sorte, puis là, quand j'ai vu les articles sortir après la sortie du film, j'étais... Je trouvais ça vraiment plate. Puis j'étais comme, asti, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme on a deux citoyennes qui ont vraiment plus de connaissances que nous autres dans un certain milieu qui font de leur mieux pour nous autres. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis après ça, il y a une réticence à ça. Je fais, ben là, le cynisme, je suis comme écœuré de ce cynisme-là. Je fais, qu'est-ce qu'on était censé faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que je fais, je comprends, là, c'est correct d'être exigeant, c'est correct de critiquer.
Tout à fait.
Mais, câline, que le cynisme est étouffant, on manque d'oxygène. Puis c'est comme ça dans tous les milieux, j'ai l'impression. Puis là, c'est dans un milieu où tu fais, hey là, attends, là c'est pas le milieu artistique, c'est pas le milieu de... On parle d'enfants qui veulent mener une belle vie.
Ouais.
C'est juste ça qu'on... Le sous-texte, c'est, on peut-tu avoir des enfants en sécurité qui mènent une belle vie? C'est ça qu'on demande. Puis je fais, après ça, je me disais, mettons, là, faire un film sur un sujet comme celui que vous abordez, il y a du monde qui ne voudront pas répondre à vos questions. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne voulaient pas vous rencontrer.
En même temps, je salue encore une fois, je l'ai souvent dit, je le répète, l'audace et le courage que ça prenait de la part du DPCP, de la part des criminalistes, de la part de la magistrature de venir s'asseoir devant nous parce qu'ils l'ont fait. Ils sont dans le film. Ils sont là et on a fait de longues entrevues avec eux et c'est ça... C'est important pour nous d'avoir leur point de vue, leur input. C'est sûr que les criminalistes ont pris un peu plus de place parce que ça s'est imposé au moment du tournage. T'sais. Quand, à un moment donné, tu recueilles de la matière et que tu vois qu'il y avait matière, justement, à recueillir les trucs qu'ils utilisent pour démolir une victime, si je peux reprendre leur propre terme. Donc, c'est ça qui s'est imposé. Donc, c'est pour ça que ce segment-là est peut-être un peu plus long. Mais ils sont venus, puis ce sont d'excellents procureurs. Je parle, entre autres, la couronne, Nadine Aviernik, puis je le dis dans le film, je veux dire, je l'ai vue à la cour combien de fois, elle en a fait condamner un puis un autre, là. C'est une des plus chevronnées qui existe, elle est là. Mais c'est sûr et certain qu'il fallait... moi, je savais pas qui ils allaient envoyer le DPCP quand on a fait la demande. Tu sais, j'ai demandé des procureurs, et c'est pas moi qui ai choisi. On nous a envoyé un procureur de Québec, un procureur de Montréal. C'est avéré que je connaissais la procureure de Montréal, mais c'est pas des individus qu'on a ciblés. Que je le disais, il y a des individus qui font extrêmement bien leur travail. C'est le système au complet. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ça. Donc, oui, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose cet été quand j'ai vu le DPCP incapable d'introspection. Parce qu'au-delà du fameux chiffre, là, il y avait tellement plus que ça dans le film. T'sais. Puis c'est pas nous qui le disons. Ce sont des intervenants qui ont les deux pieds dedans. T'sais, Sophie Gagnon, elle est directrice de Jury Pop. Je veux dire, si moi je reçois beaucoup de témoignages, elle en reçoit encore plus au quotidien. des anciens juges. T'sais, on nous a beaucoup aussi pointé du doigt parce qu'on avait... que c'était très pro-victime, là, ou en tout cas, tu sais, je veux dire, il y a à peu près une quinzaine d'intervenants du milieu juridique dans le film, de tous les horizons, tu sais, fait qu'on a vraiment, je pense, interviewé énormément de gens, et il y avait un constat qui sortait, c'est et ça. C'est ça qu'on a exposé, tu sais, je veux dire, c'est juste ça qu'on a fait.
Mais c'est qu'il y a un manque d'écoute aussi, à un moment donné, c'est que j'ai l'impression que, cette affaire-là,
mais là, on passe à côté de... quand j'ai vu... la controverse sur les chiffres, puis tout ça. Puis là, je voyais les acteurs du monde de la justice en entrevue, puis tout ça. Je suis comme, OK, mais là, nous autres, quand est-ce qu'on peut... Tu sais, nous, victimes d'agression, quand... Là, moi, quand j'ai entendu une procureure à la radio dire, non, mais c'est pas vrai, les victimes sont très bien accompagnées, le film n'est pas représentatif. Je suis comme, pardon? Là, toi, tu prends la parole au nom des victimes. Je comprends que cette personne-là puisse se sentir attaquée sur son travail, si c'est son travail, puis qu'elle, elle le fait bien. Mais de là à dire, non, c'est pas vrai, les victimes... Cette personne-là, à heure de grande écoute à la radio, est en train de dire ça. Fait que si moi, je suis pas familière avec... Si j'ai personne autour de moi qui a vécu des agressions, que jamais personne qui a porté plainte, puis que j'entends cette personne-là qui travaille là-dedans dire « le film n'a pas rapport et il n'est pas représentatif », ben je vais faire « ah, ben dans ce film-là, il n'y a pas rapport, dans le fond. » Puis c'est ça que je fais comme « mais voyons donc, comment peut-on laisser le micro à cette personne-là dire ça, puis ne pas inviter... J'étais comme, mais invitez-nous, puis on est plusieurs survivants à cet écrit, puis faire, mais invitez-nous dans cette discussion-là, puis c'est correct aussi, ils ont reçu Émilie et Monique pour réagir, mais je suis comme, mais nous, encore une fois, on nous fait taire, c'est un peu ce que... Encore une fois, on ne nous entend pas. Et moi, c'est ça que j'étais sidérée. J'ai fait, je comprends que là, c'était devenu entre les réalisatrices puis ce monde-là. Mais en arrière de ça, le film voulait donner la parole à des gens qui ont été traumatisés dans ce système-là. Fait que moi, j'étais sidérée de voir ça. Vraiment, j'en revenais pas.
Avec raison. Totalement.
Mais j'ai en même temps, je nous sens plus au courant. T'sais, dans le sens où je suis là, j'ai trouvé ça vraiment plate. Puis j'étais pas dans le processus. Fait que... Je peux pas. J'ai peut-être un parti pris. En fait, assurément. Fait que. Puis je l'assume. Tu sais, à un moment donné, c'est là où c'est comme qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Mais. C'est ça, à un moment donné, je trouve que. Je vous trouve très courageuse et très, très bonne et très généreuse à travers tout ça parce que c'est énergivore. C'est votre vie. C'est votre temps. C'est votre visage. C'est. Puis,
moi, je dirais plus tête de cochon que courageuse, peut-être. Mais tu sais, je t'écoute, puis il y a quelque chose qui me vient en tête. Bon, mon mentor, c'est Paul Archange, je le disais, puis lui, il a fait des films. Il a fait des films qui ont fait énormément de jaser aussi, qui ont suscité beaucoup de controverses, entre autres les voleurs d'enfance à l'époque avec la DPJ. Puis il y a des gens qui m'ont envoyé cet été des articles qui avaient été écrits dans la foulée de la sortie des voleurs d'enfance où on accusait Paul Arcand on lui disait à cause de toi, il y aura pas, il va y avoir une diminution des plaintes et donc des enfants. Tu vas avoir du sang sur les mains. C'est là grave. Là. On avait dit ça de Paul Arcand. Okay? Et là, on est 15 ans après son film et Régine Laurent vient de faire une commission d'enquête sur les droits des enfants et on vient de mettre le doigt sur tous les problèmes que Paul Arcand avait identifiés il y a 15 ans. Fait que tu sais, ça, là, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça cet été. Puis ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, OK, c'est sûr que là, ça fesse, là, les gens sont pas contents. Mm-hmm. Mais ultimement, je pense que si c'est la réaction, elle est aussi vive.
C'est que ça brasse quelque
chose. Puis si ça brasse quelque chose, c'est peut-être que c'est le début d'un changement et qu'on peut souhaiter, dans quelques années, voir opérer ce changement-là. Plutôt que tard, tant mieux. Mais ça m'a comme réconforté un peu ça. Parce que je me suis dit, OK, lui aussi, il avait vraiment donné un fichu gros coup de pied dans le nid de guêpe aussi. Puis il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Il y avait des gens qui étaient spécialisés en communication, dont l'objectif était de discréditer le film. C'est sans aucun doute ce qui est arrivé avec nous aussi. Mm-hmm. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est légitime. quiconque se fait attaquer va répliquer, c'est normal. Mais rendu là, sur le fond, je pense que c'est pour ça qu'on en discute depuis je ne sais même pas combien de temps. C'est extraordinaire. Mais
Charles va nous dire deux
mais
heures.
Mais deux heures, écoute, merci pour ça.
Oui,
merci Jay. Merci parce que merci deux heures autres. Sur un sujet aussi important, je pense que ce n'est pas arrivé encore. Puis c'est, ouais.
C'est un merci qui vous revient entièrement. Entièrement, c'est votre générosité. C'est vous qui vous déplacez puis qui utilisez de votre temps, de votre vécu, qui rebrasse des affaires. Le merci vous revient entièrement.
C'est un grand luxe aujourd'hui, à l'ère où tout va vite, où on consomme de la nouvelle à une vitesse folle, d'avoir le temps d'approfondir quelque chose. Puis c'est ce qu'on vient de faire. C'est un peu comme justement quand on rencontre le public après les films, on a le temps de discuter. Mm-hmm. Tu sais. Puis c'est là où souvent les nuances sortent.
Ouais.
Et c'est là où les gens font « Ah, ah, OK, ben oui, c'est sûr. Tu sais, ça a bien du bon sens. » C'est pas dans un article de 250 mots où on y va d'une opinion ou d'une autre opinion. Tu sais, c'est beaucoup plus grand que nous tous là, en ce moment, ce sujet-là.
Non, puis c'est le fun quand le film sert d'introduction à une discussion aussi. Il ne faut pas le voir comme une espèce de finalité de jugement sur ce système de justice. C'est vraiment, il y a ça, on ouvre cette porte-là. Maintenant, de quoi on parle? Qu'est-ce que vous retenez? Puis les Q&A devaient être fascinants. Ça devait être vraiment, vraiment intéressant de prendre le temps de se faire questionner. Il y a dû avoir des gens qui remettent en doute certaines choses. Puis
beaucoup.
Là, vous pouvez discuter.
Oui.
Puis c'est là que c'est agréable parce qu'on voit, lors d'échanges, on voit avec les filles qui une réflexion, puis tout ça, on voit pas... c'est le fun d'aller un peu plus loin que juste l'espèce de critique en faisant « Ah, ben là, c'est trop... »
Exact. On est capable d'expliquer chacune des critiques, des décisions, de la démarche, exactement, tu sais, puis de...
Ouais. T'en as-tu parlé à Paul? Est-ce qu'il...
Je soupe avec lui, là, dans quelques jours. Ouais, je te reviendrai. Parce que, bon, on était respectivement en vacances, et puis avec Émilie, on a une petite réunion au sommet pour faire le point sur cet été, oui. Oui, puis, je veux dire, il nous a appuyés à travers tout ça. Il a été conseiller pour nous. Tu sais, même au moment où je me souviens quand on avait appris que Maître Davis, dans le film, avait dit « Moi, j'ai jamais perdu de cause. » Et là, on avait reçu des jugements. Je suis contente d'en parler parce que c'est important aussi qu'on puisse l'expliquer. On avait reçu des jugements qui disaient qu'il y avait des causes qui avaient bel et bien perdu. Et là, évidemment, moi, consternée, Émilie aussi, comme là, on va se faire attaquer là-dessus, on peut pas laisser ça dans le film et tout. Et puis, j'ai appelé Maître Davis, j'ai dit « Écoute, écoutez, est-ce que m'avez-vous bullshité aussi? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce... Et lui avait une explication pour chacun de ces jugements-là. Dans un des cas, pour lui, c'était de la maltraitance, c'était pas de l'agression. Dans un autre des cas, c'est pas lui qui siégeait. En tout cas, lui, pour les trois cas, là, il y avait une explication. À partir de là, ce gars-là a 35 ans de carrière, 30 ans à peu près, je m'excuse, de carrière. Et il est un avocat qui accorde des entrevues dans d'autres médias, dont Radio-Canada. Je l'ai souvent vu à Isabelle Richer, par exemple. Et je peux pas être garante de tout ce qu'il a dit pendant cette entrevue-là. Et là, en plus, il y a une explication pour ça. Et puis, je me souviens très bien du précieux conseil de Paul Arcand à ce moment-là, tu sais. Vous faites du document. Et d'ailleurs, de Denis Arcand aussi, qui avait pris la ligne à un moment donné parce que, bon, notre productrice étant Denise Robert, là, les filles, vous avez fait un film. Votre film, là, je veux dire, vous avez mis des gens devant la caméra, ils ont parlé en toute connaissance de cause et il dit au début de l'entrevue, tu veux-tu une entrevue politically correct ou pas politically correct?
C'est ça.
Parfait, c'est établi dès le départ. À partir de là, on est des documentaristes, nous, on a capté quelque chose et on décide ensuite du montage. C'est évident, mais c'est très, très, très fidèle à ce qui s'est passé. Il y a eu aucune... il n'y a pas eu de manigance, d'exemple de cette entrevue-là avec Maître Davis ou avec quiconque. Donc, c'est ça aussi qui s'est passé en coulisses par rapport à ça. Fait que ça, c'est une critique qui a pris le dessus, alors que quand tu la décortiques, ben, tu te rends compte que voici la raison pour laquelle cette quote-là, elle est dans le film, tout simplement.
Donc, est-ce que des fois, vous avez l'impression que... c'est... Puis là, peut-être qu'avec ma question, je finis par un peu nourrir la même bête que j'aime pas tant, mais que finalement... Moi, dernièrement, une phrase que j'utilise beaucoup, c'est j'ai l'impression que les commentateurs ont gagné.
Mm-hmm.
Fait qu'on parle plus nécessairement de l'objet en soi. On met l'objet aux yeux du public. Le public commente et là, on parle des commentateurs. Est-ce que ça, c'est un peu dommage?
Ben moi, je me sentais comme ça quand je voyais les articles. Évidemment... Moi, je suis très émotive, puis Monique aussi parce que c'est son film, mais moi parce que c'est ma vie aussi. Fait que quand je me disais, ah, moi, j'ai trouvé le courage de parler de cette expérience-là, j'ai ramassé mon courage, puis là, en ce moment, Puis c'est peut-être égocentrique, là, mais de faire comme, il y a des gens qui vont même pas saluer ça, pas tant de ma part, mais de la part de toutes les...
De l'ensemble des personnes.
Des personnes qui prennent la parole dans ce film-là. J'étais déçue, ouais. J'étais comme déçue que ça prenne cette tangente-là, encore une fois, de commenter, de critiquer, de nanana. Et certaines personnes qui l'avaient même pas vu, tu sais, du monde de la justice ou plein de gens qui faisaient... Je l'ai pas encore vu, mais nanana.
Ouais, ça, c'était spécial quand même. Ça, c'était vraiment spécial. Écrire une critique du film sans l'avoir
vu. Imagine, moi, j'ai pas écouté ta toune.
Mais après ça, on nous dit de manquer de rigueur. Parce que rigueur, on va voir le film puis on va en jaser après. On va s'asseoir puis on va en jaser avec plaisir. Mais je comprends parce que ce que tu dis, c'est ma vie. Puis on a peut-être, tu as peut-être ce sentiment qu'on a passé à quelque chose à côté médiatiquement. Mais moi, j'aime aussi me rappeler de tout ce qui a été dit, écrit, qui était extraordinaire. Les critiques, oui, mais aussi les gens qui ont pris parole publiquement.
Mais c'est ça qui, ce qui est capoté,
sont venus défendre le film. Il y en a eu énormément aussi. Là.
Mais as-tu remarqué que c'était des lettres ouvertes? Fait que dans l'espace, dans le vrai espace médiatique, là, dans les journalistes, c'était des critiques négatives sur le film. Puis là, oups, aux deux jours, il y avait une lettre ouverte dans la presse de... il y a Marcel qui a pris la parole, il y a comme une autre personne en Mauricie, quelqu'un qui a fait comme...
Ben, chercheur en criminaux aussi.
Mais ça, c'était dans les lettres ouvertes. Puis j'étais comme, quel dommage qu'on ne voit pas un dossier qui donne l'autre parole. Mais oui, heureusement, il y avait ça. Puis encore une fois, entre nous, moi, j'ai reçu plein de témoignages de « Hey, moi aussi, je suis une survivante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit-tu? On fait-tu quelque chose? » Puis ça... ça m'émeut tellement, puis évidemment qu'on va faire des choses, parce que maintenant, vu que la honte est en train un petit peu de changer de camp, on n'a plus honte à la noirceur, chacune dans notre coin, et on se parle et on fait, aïe aïe, on est tellement forte quand on se parle. Moi, la première fois que j'ai parlé à Annick Charrette, et ça me donne envie de pleurer, c'est tellement émouvant, bon, c'est ça, c'est tellement beau de savoir qu'enfin, on se réapproprie notre pouvoir qu'on perd en se faisant agresser, puis de faire comme, ben on redevient forte et ensemble, on va essayer de faire des trucs pour changer le monde, tu sais. Puis ça, moi, ça m'émeut beaucoup plus que les critiques me font mal. Et c'est là que jaillit une autre flamme d'espoir, tu sais.
On parle ici de quelques textes seulement qui, oui, évidemment, ont beaucoup rayonné. Mais l'essentiel, c'est ce qui se dit après les séances de films. C'est ça qu'on retient.
C'est les messages qu'on reçoit.
Qu'on reçoit. Et c'est les gens, comme je disais tantôt, qui viennent valider la thèse du film et qui viennent dire haut et fort et qui sont dans ce système-là, oui, il y a quelque chose qui cloche. T'sais, moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé cet été pour m'accrocher à ça parce que c'est pour ça qu'on a fait le film. Je pense que là, on nous a dit merci de l'avoir fait pour toutes ces raisons-là, autant du côté des victimes que des gens du système. Et ça, c'est beaucoup ça, moi, qui résonne dans ma tête en ce moment. Parce que, tu sais, il y a des gens qui décident d'aller à contre-courant pour toutes sortes de raisons qui ne nous appartiennent pas. T'sais, moi, j'ai lu des choses, puis comme je disais tantôt, je suis la première à prendre la critique. Des fois, le chapeau me faisait tout simplement pas. Et j'ai dit à un moment donné, là, comment tu veux, je vais pas m'effondrer là, en petite boule par terre en me disant non, parce que le reste est beaucoup plus important. Mais là, t'as raison par contre. Là, il va falloir que plus de gens voient le film, il va falloir que cette prise de conscience citoyenne-là soit encore plus grande et que ça surpasse les quelques commentaires
négatifs. Oui, parce que ceux qui voient le film, après l'avoir vu, ne peuvent plus faire comme s'ils ne l'avaient pas vu. Tu sais, il y a des affaires, il y a des moments comme ça dans la vie où tu fais, je viens d'entendre telle nouvelle, je viens d'apprendre cette information-là, je ne peux plus faire comme si je ne savais rien. Puis il faut le prendre comme ça, je pense, puis pas laisser ça s'estomper, mais le laisser nous habiter, puis nous propulser dans une espèce de prise d'action concrète, tu sais.
Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que on
peut-tu
encore? dans la tournée médiatique, là, dans la foulée de ces articles-là en question dont on parle, il y a un animateur radio qui me reçoit et je ne nommerai pas l'animateur en question, mais je peux juste vous dire que sa recherchiste me dit, là, j'espère que tu es prête parce que ça va être un hot seat, là, tu sais, tu vas être challengée. Moi, j'étais très prête, vous auriez dû me voir, là, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'avais mes papiers, là, j'avais rarement été aussi prête que ça pour défendre mon point. Et finalement, j'ai posé la question, est-ce que l'animateur en question a vu le film? On m'a dit non. J'ai dit, je vais avec grand plaisir être challengée par l'animateur en question après qu'il ait vu le film. Il a regardé le film. Et finalement, j'ai zéro été challengée.
Ah, mais c'est quand, ça!
Mais c'est ça! Parce que finalement, il avait lu bon les critiques et tout, puis là, il dit non, mais attends, là, je veux dire, il y a tellement d'autres choses dans ce film-là. Et c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il n'a pas eu de il n'a pas voulu me coincer sur quoi que ce soit, dans la mesure où il m'a posé une question ou deux là, pour que je puisse m'expliquer sur le. Je ne l'appellerai pas Maître Archambault, là, sur Claude F. Archambault. Mais essentiellement, c'est ça. C'était juste comme, sais-tu quoi? Vous avez fait un film important.
Ouais, puis ouais. C'est aussi. Vous êtes passé à l'action. Puis ben ça dérange. Naturellement, vous avez quand puis c'est ça qui finit des fois par être puis je veux dire je suis très loin d'avoir fait quelque chose comme ce que vous avez fait. Mais on dirait que des fois quand on essaye des affaires, quand on fait des choses, mais naturellement, il y a des réactions qui viennent avec ça.
Tout à fait.
Puis pour revenir à l'ambiance de ce temps-là, je trouve, ouais. C'est une des premières fois de ma vie que j'utilise le mot découragé. J'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Je suis pas vraiment décourageable. Et là, c'est oh, puis là, je l'ai frôlé. Là, puis fait que j'admire votre force. Puis je suis heureux de savoir que quand on t'annonce un hot seat, t'es comme bring it.
Ben, bring it, certain. Oui, parce que, ben oui, oui, tellement.
Mais j'admire beaucoup ça.
Toi, je pensais que t'allais me challenger. Non, c'est pas. Comme, aujourd'hui, là, Jay, là, je suis prête. Je suis prête. Ah ouais, ah ouais, amène-la tes questions. Non, non, c'est pas vrai.
Non, mais ici, le pire, ouais. C'est que, tu sais, tu parlais de safe space un peu plus ouais. Tôt. Puis pour moi, le podcast, ce n'est un dans le sens où. J'ai confiance en mes auditeurs auditrices. Je les connais pas tous et toutes, évidemment. je m'attends pas à ce qu'ils soient d'accord avec tout ce qui se dit ici. Mais pour moi, c'est un lieu d'écoute puis de partage. Puis moi, les podcasts que j'enregistre, je trouve que souvent j'y repense beaucoup. Ça m'habite longtemps, des fois plus longtemps que ce que je pourrais croire. Puis puis en vous recevant aujourd'hui, j'étais très honoré que vous acceptiez de venir me parler. Puis il y a une partie de moi aussi qui était comme, ah, tu sais, c'est confrontant. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui brasse des affaires naturellement. Mais je sais que puisque ça brasse quelque chose, sans aucun doute, c'est un podcast qui va me suivre longtemps, tu sais. Fait que je vous remercie vraiment de votre partage, de votre force. Je suis très admiratif de qui vous êtes. Puis je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci à toi
de l'accueil.
Merci. Bon, merci. Fait qu'on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux respectifs.
Instagram, Twitter, Facebook.
T'as des shows télé, puis tout, là, toi, ça fait.
Ah, moi, je suis à peine occupée. À peine. Écoute, oui, je commence une nouvelle émission de radio sur ICI Première. Première diffusion 4 septembre. Je ne peux pas te dévoiler le titre encore. Okay. On est en train de finaliser les derniers détails, mais ce sera aussi un endroit où il fera bon prendre le temps de se parler et d'écouter. Même des gens qui, parfois, ont pas beaucoup d'espace pour le faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec cette émission de radio-là. Permettre à des gens qui ont pas beaucoup de voix de pouvoir s'exprimer et de le faire dans un environnement, justement, sécuritaire et sans jugement. Et sinon, ben, il y a Deuxième Chance qui revient à l'hiver prochain et L'Avenir nous appartient avec Émilie Perrault, entre autres.
Victime, oui. Très bientôt, on va pouvoir l'écouter dans le confort de notre salon.
En vidéo sur demande, oui.
On se tient proche de vos réseaux sociaux pour le savoir.
Absolument, tout à fait. Dans les prochaines semaines, vous devriez voir apparaître sur vos terminaux numériques La Parfaite Victime.
Génial. Lily, tu parlais de Ça suffit tantôt?
Oui, Ça suffit. Ils ont un compte Instagram, ils ont un site web aussi avec des ressources où même les gens, s'ils ne veulent pas se confier, appeler ou texter, ils peuvent. Il y a des ressources où tu peux remplir un questionnaire puis ça te donne des ressources d'aide. Donc, c'est vraiment super. Il y a aussi Marie-Vincent qui a des ressources incroyables pour les parents en prévention. Il y a même, il me disait que les applications, quand tu ne sais pas trop ce que ton adolescent fait sur ces applications, chaque application est analysée avec ça. Y a-t-il des risques? Est-ce qu'il communique avec des gens à l'extérieur? Tout ça. Donc, Marie-Vincent qui font un travail extraordinaire, mais que tout le monde peut aller voir leur site là, pour avoir des outils. La pétition pour la mise en place d'un tribunal spécialisé qui est dans ma bio Instagram et que plusieurs personnes partagent. On a jusqu'à début octobre pour la signer. C'est un beau geste concret.
Ton Instagram, Lily Thibault?
Oui, exact. Puis ben moi, je fais aussi d'autres choses qu'être une survivante. Oui. J'ai quelques tournages cet été, dont la série Mégantique qu'on commence sous peu.
Wow.
Et j'ai un premier livre qui va sortir en février.
C'est vrai.
Et qui ne parle pas d'agression, qui est autre chose. Parce que je ne suis pas que ça. Je trouve ça important aussi de prendre la parole pour dire qu'il y a autre chose. Je prends la parole pour d'autres choses. Mais oui, il y a un joli livre tout doux qui s'en vient.
Et Mégantique, on va voir ça quand? En 2022?
Je ne veux pas donner de mauvaises réponses.
OK, d'accord. on va surveiller ça.
Ah, d'accord.
Hot seat. T'étais sur un hot seat.
Oh, merde! Je me suis fait avoir.
Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous souhaitiez partager? Je sais que tu avais amené des notes.
Moi, c'est que à chaque fois que j'avance des chiffres, je ne veux pas être dans le champ. Mais je veux vraiment rappeler que je trouve que la plateforme, ça suffit. Ça m'a comme... j'étais un peu navrée de voir le peu de gens qui suivent ça. Puis je ne suis pas pour la popularité des individus sur Instagram, mais je trouve que ce compte-là vaut la peine d'être partagé et repartagé encore une fois. Ils ont du soutien 6 jours sur 7, une ligne téléphonique de 13h à 22h. Bientôt, sur leur site, il va y avoir un chat là, en direct. Et ils ont fait des tests pour s'assurer que les données recueillies dans le chat ne pouvaient s'effacer automatiquement. Parce que ce qu'il me disait hier, c'est qu'il y a certaines plateformes qui recueillent toute l'info, évidemment, pour la revendre, mais eux, ils se sont assurés d'avoir cette espèce de safe space-là. Donc ça s'en vient sur leur site. Alors ça suffit, c'est super important de leur donner plus de lumière puis que les gens en détresse sachent que ça existe. Voilà.
Le mot de la fin pour te remercier à nouveau.
Oui, merci.
Pour le
temps. Merci beaucoup.
Le temps. Ouais. C'est précieux, le temps.
Et la sécurité aussi. Ah, pour, je m'en mets ici en me disant... Hey, c'est le fun, je me sens en sécurité. Je sens qu'on va pouvoir parler puis que ça va être agréable, mais que c'est ça. En sécurité, il n'y aura pas de quand quelqu'un est mal intentionné ou
mauvaise foi.
Ouais, malveillance. Ouais, ouais, exactement. Fait que merci pour ta bienveillance.
Puis on revient quand tu veux, c'est tellement beau chez vous.
Oui, ben là vous savez c'est où.
Magnifique.
On s'en fait ça. Okay. Vraiment. Merci, Lily, merci Monique. Bon succès.
Merci.
Prenez soin de vous.